Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, excellent réveil. Merci d'avoir choisi RMC pour vous réveiller. On est le mardi 21 avril. Alors c'est l'une des conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Le prix des matières premières explose. Emballage, transport, énergie. Les industriels réclament la rouverture des négociations commerciales avec les distributeurs. Et ça aura une conséquence, l'augmentation des prix dans les rayons. À 7h40, l'invité d'Apolline Matin, c'est le représentant des agro-industriels. Est-ce que vous redoutez cette inflation? Si vous êtes d'ailleurs dans le domaine de l'agriculture, si vous travaillez dans une PME qui fabrique des biscuits, de la charcuterie, appelez-nous pour nous dire si effectivement, là, ça y est, ça coince et si les prix vont devoir augmenter. Je vous attends au 3216 et vos messages sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. Et puis la trêve entre les États-Unis et l'Iran doit s'achever demain. Ultime négociation au Pakistan. Est-ce qu'elles peuvent aboutir? Je poserai la question à 8h30 à l'ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin, qui est mon invité dans le face-à-face. Et puis il est de plus en plus candidat, on le voit bien, pour 2027. Eh bien, quelles seraient ses propositions sur les retraites, tiens, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la question des prix, des carburants notamment? Dominique de Villepin, je lui pose toutes ces questions à 8h30. Sur RMC et BFM TV. Il est 6h59, vous êtes bien sur RMC. Tout de suite la météo, Anthony Kazmarek, il va faire beau.
Mais oui, sur quasiment tout le pays encore, on continue sur cette même lancée printanière au nord et estivale au sud. Une exception aujourd'hui entre les Hauts-de-France et le Grand Est, vous aurez quelques nuages, voire éventuellement 2-3 gouttes, notamment vers la Lorraine cet après-midi. Ailleurs, beaucoup de soleil, à peine un voile de nuages en Bretagne et peut-être quelques averses uniquement en montagne en fin de journée sur le sud des Alpes, le relief corse et un orage sur les Pyrénées. Les températures, attention, fraîcheur au nord ce matin, 0 degré à Reims, 7 degrés à Paris, mais déjà 15 à Biarritz, et en cours d'après-midi, entre 13 et 20 degrés sur la moitié nord, 17 dans la capitale, 13 à Cherbourg, et 20 à 28 dans le sud, jusqu'à 30 degrés même du côté de Biarritz.
Très bon réveil à tous, il est 7h sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Y aura-t-il quelqu'un face aux États-Unis à la table des négociations de paix? Téhéran ne garantit pas sa présence, se dit prêt même à reprendre le combat, pendant qu'en France, le gouvernement devrait annoncer ce matin des coupes budgétaires liées à la guerre. Séisme chez Apple, l'homme fort de la marque à la pomme poussé vers la sortie plus tôt que prévu. On va vous présenter le successeur de Tim Cook et surtout ce que cela pourrait changer. Et en football, l'Olympique de Marseille punit ses joueurs. Séance supplémentaire, nuit imposée au centre d'entraînement. Tout cela pour tenter d'endiguer la crise.
Tout est prêt pour accueillir les discussions de paix à Islamabad. Il ne manque plus que les négociateurs eux-mêmes.
La délégation de Washington doit se mettre en chemin, mais personne ne sait si les Iraniens, qui laissent planer le doute, seront au rendez-vous. D'autant, Grégoire Morelli, que le régime des Mollahs pose une condition essentielle avant tout échange, la fin du blocus américain du détroit d'Ormuz.
Oui, et c'est hors de question pour Donald Trump. Sur son réseau social, le président américain affirme qu'il ne lèvera pas le blocus tant qu'un accord ne sera pas trouvé avec la République islamique. Lors d'une interview donnée à un média américain, il a aussi martelé que l'Iran ne doit pas obtenir d'armes nucléaires. Donald Trump a aussi déclaré qu'il était très improbable qu'il prolonge le cessez-le-feu qui doit expirer demain soir. Si les revendications américaines ne sont pas satisfaites d'ici là, beaucoup de bombes exploseront, affirme-t-il. En réponse, le président du Parlement iranien, Mohamed Ghalibaf, qui pourrait diriger la délégation iranienne au Pakistan, dit ne pas accepter de négocier sous la menace et que l'Iran est préparé à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille.
L'autre front diplomatique, c'est entre le Liban et Israël qui s'accusent mutuellement de briser le cessez-le-feu en vigueur. Avant la reprise des négociations à Washington, jeudi, Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Élysée le Premier ministre libanais. C'est à cause de cette crise que l'État s'apprête à se serrer la ceinture. Grande réunion au ministère de l'Économie dans 2 heures. Thomas Becker du service politique de RMC, vous allez la suivre pour nous et on s'attend à des annonces de coupes budgétaires.
Oui, il ne faut pas attendre la fin de l'année pour voir que la trajectoire a dérapé, résume un conseiller de Bercy. Objectif transparence pour dire aux parlementaires, syndicats, représentants de la sécurité sociale où l'État devra faire des économies pour tenir le déficit à 5% comme prévu dans le budget 2026. Le contexte international a précipité la hausse des taux d'intérêt. Conséquence, la dette française coûte plus cher à rembourser. De l'autre côté, il y a la croissance revue à la baisse et les aides ciblées que le gouvernement a promis de compenser à l'euro près. L'État cherche déjà autour de 6 milliards d'euros d'économies. Il en faudrait même 8, calcule un parlementaire convié à la réunion qui rappelle que la France est attendue au tournant sur la réduction de sa dette par l'Union européenne.
Alors cette question, où trouver ces 4 à 6 milliards d'euros d'économies, Emmanuel Le Chypre, notre économiste maison, nous aidera à y voir plus clair. Ce sera juste après le journal de 8h. Mais pour l'heure, 7h04 sur RMC, et du changement annoncé à la tête d'une des entreprises les plus populaires du monde. Apple va remplacer son boss, Tim Cook, lui qui avait pris la suite du fondateur de la marque à la pomme, Steve Jobs, il y a 15 ans. Romain Hoog, son successeur, a été trouvé en interne. Il s'appelle John Ternus.
Oui, et c'est une surprise. Alors, pas vraiment sur l'identité du successeur de Tim Cook, mais plutôt sur le timing. En fait, on ne s'attendait pas à cette nomination aussitôt. À 65 ans, Tim Cook est donc prêt à confier les rênes de l'entreprise à John Ternus. 15 ans de moins, une figure chez Apple, quelqu'un dit de charismatique et d'apprécié. Jusqu'ici, chef des produits physiques, du Mac à l'iPhone, il était pressenti pour prendre la suite de Tim Cook. Mais cette passation marque néanmoins un virage pour Apple. Tim Cook, c'est l'homme qui a fait passer Apple dans une autre dimension à Wall Street. En 15 ans, l'entreprise a quadruplé son chiffre d'affaires et a vu sa capitalisation multipliée par 13 pour dépasser aujourd'hui les 4000 milliards de dollars. Les fans de la marque lui reprocheront de ne pas avoir assez innové et surtout d'avoir raté la marche en ce qui concerne l'intelligence artificielle. John Ternus, lui, c'est un ingénieur, l'homme du design, des beaux produits plus fiables, plus durables. Il sera très attendu sur la question de l'IA et c'est donc avec pas mal de pression sur les épaules qu'il prendra son poste en septembre prochain.
Romain Hoog pour RMC, John Ternus qui aura à traiter avec la plateforme X dont le patron Elon Musk ne s'est pas rendu à son audition devant la justice française hier, elle qui enquête sur les dérives du réseau social, de quoi agacer le milliardaire qui a qualifié la procureure de Paris de, je cite, marionnette d'ONG de gauche. Début aujourd'hui du procès de l'assassinat d'Agnès Lassalle, cette professeure d'espagnol tuée au couteau par un élève dans son lycée de Saint-Jean-de-Luz en 2023. Ce jeune de 16 ans, à l'époque, avait confié aux enquêteurs avoir entendu des voix le poussant à passer à l'acte. On y reviendra dans le journal de 7h30. Bientôt 3 semaines d'angoisse près de Nantes. 3 semaines qu'une trentenaire et sa fille de 15 mois sont introuvables. Aucun signe de vie malgré les fouilles. Maxime Clier-Ruza du service police-justice de RMC. L'enquête se resserre autour du compagnon et du père qui a depuis fui à l'étranger.
Oui, l'homme de 41 ans a quitté la France accompagné de la fille du couple le 2 avril dernier. Les enquêteurs ont découvert qu'ils avaient pris un vol depuis Nantes en direction de l'Algérie la veille du signalement de leur disparition. Cela faisait 9 jours que les proches de la famille étaient sans nouvelles du couple. Au-delà des auditions, la gendarmerie a déployé de gros moyens pour tenter de retrouver une trace de la mère de famille. Plongeurs, chiens pisteurs, hélicoptères ou encore drones, au total, plus de 80 gendarmes ont été mobilisés pendant le week-end de Pâques. Finalement, c'est depuis l'Algérie que l'homme a donné de ses nouvelles par téléphone à ses proches. Mais sa compagne, elle, n'a plus donné aucun signe de vie, suffisant pour le procureur de la République de Nantes pour ouvrir 2 enquêtes distinctes, l'une pour enlèvement de mineurs, la seconde pour meurtre par conjoint.
Maxime Clier-Ruza du service police-justice de RMC. La saga ZFE n'est pas terminée. Des députés socialistes et écologistes ont saisi le Conseil constitutionnel hier contre la suppression de ces zones interdites aux véhicules polluants. Ils estiment que cette mesure n'a aucun rapport avec le texte dans lequel elle a été votée la semaine dernière. Si l'argument est retenu, c'est effectivement un motif d'annulation. Le rendez-vous foot du jour, c'est sur RMC. Ce soir, Lens reçoit Toulouse à 21h10 en demi-finale de la Coupe de France. Les Lensois qui n'ont jamais remporté la compétition.
Et puis pas de Coupe de France pour l'Olympique de Marseille, mais un programme chargé cette semaine.
C'est ni plus ni moins qu'une punition pour les joueurs en pleine crise de résultats. L'OM 6e en championnat, défaite à Lorient ce week-end. Le directeur du football, Mehdi Benatia, avait prévenu qu'il allait serrer la vis. C'est chose faite, Florent Germain.
Oui, le programme de l'OM est tombé et effectivement, il est corsé. Le repos d'hier, déjà, a été remplacé par une séance vidéo et une réunion houleuse. Aujourd'hui et demain, double ration, entraînement le matin et l'après-midi. Et à partir de jeudi, mise au vert au centre Robert-Louis Dreyfus, soit en fait 3 nuits complètes à la commanderie avant le match de dimanche contre Nice. La direction de l'OM en a ras-le-bol des états d'âme du vestiaire marseillais, ceux qui regrettent l'ancien coach Roberto De Zerbi, ceux qui ont des les envies d'ailleurs ou ceux qui n'accrochent pas avec le nouvel entraîneur, Habib Bey. En bref, punition pour tout le monde et un rappel à l'ordre. Marseille est aujourd'hui 6e de Ligue 1 et doit se battre jusqu'au bout pour le podium.
Et un mot de basket pour vous signaler ce nouvel accomplissement de Victor Wembanyama. La star française vient d'être élu meilleur défenseur de l'année en NBA. Alors cela avait déjà été fait par deux Français, mais c'est le premier à avoir été désigné à l'unanimité des votants et c'est surtout le plus jeune joueur de l'histoire à détenir ce titre.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h08 sur RMC. Non, date de naissance, adresse, email, toutes ces données, nos données, sont peut-être dans la nature. L'agence qui gère les demandes de pièces d'identité a été piratée, on l'a appris hier, 18 à 19 millions de données concernées. Bonjour Yann Maël, l'ARR, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avocat, vous êtes spécialiste du droit numérique. L'État ne protège pas suffisamment nos données, voilà votre parti pris dans un instant. Et puis je vous attends au 32-16, dites-nous si vous trouvez... inquiétant, en tout cas c'est mon cas, que l'État lui-même ne soit pas capable de protéger nos propres données. On vous donne toute l'explication et votre témoignage dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
7h12 sur RMC et RMC Story. Entre 18 et 19 millions de nos données personnelles sont en vente en ligne. Et selon le pirate qui les vend, elles ont été récupérées sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, la NTS, qui s'occupe de nos pièces d'identité, de nos permis de conduire. Et c'est ce qu'a confirmé, a fini par confirmer l'agence elle-même hier. Bonjour maître Yann Maël Larère. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes spécialiste du droit numérique. Et votre parti pris ce matin, c'est que l'État ne protège pas suffisamment nos données, on l'a vu. Pourquoi il y a des défaillances ?
Alors, c'est plus des défaillances parce que c'est quelque chose de systématique. Tous les deux mois, il y a à peu près une grande agence de l'État qui perd nos données. Alors là, c'est 19 millions. Il y a quelques mois, c'était France Travail qui a été condamné pour avoir perdu plus de 30 millions de données d'inscrits à France Travail sur plusieurs années. On l'a appris longtemps après. Et on pourrait multiplier les exemples. Il y a aussi les services des impôts qui ont perdu cette fois-ci des RIB. C'était encore il y a quelques mois.
Des RIB ? Non mais c'est délirant, pardon. C'est honteux. C'est honteux.
Évidemment que c'est honteux parce que d'abord, pourquoi est-ce qu'on parle de protection des données au tout départ ? Le RGPD, on nous a fait des tartines avec. C'était pour nous protéger contre les méchants GAFAM qui collectaient nos données.
Alors les RGPD et les GAFAM, redites-nous ce que c'est.
Alors le RGPD, c'est le règlement européen pour la protection des données personnelles. Et donc depuis...
Qui pointait du doigt la responsabilité de tous les grands groupes américains, les Google, les Facebook, qui eux n'en faisaient pas suffisamment, soi-disant, pour protéger nos données.
Voilà. Surtout, ils les commercialisaient, ils utilisaient assez bien les données pour, vous savez, nous traquer sur Internet et nous proposer des publicités ciblées. Et ce RGPD prévoit tout un tas d'obligations qui s'appliquent aussi à l'État. Donc c'est l'État qui s'est piégé, entre guillemets, un peu lui-même. Et l'État s'est mis aussi à faire du numérique, sauf que lui, il n'a pas tiré les conséquences du RGPD, c'est qu'il est responsable de la protection des données. Quand on a des données sensibles, eh ben on doit être encore plus vigilant sur cette protection des données.
Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Qui est en possession désormais de ces données ? Pour en faire quoi ? Qu'est-ce qu'on risque ?
Alors, qu'est-ce qu'on risque ? Eh ben, on risque de recevoir encore plus de messages non sollicités par SMS, par mail, par téléphone, puisqu'ils ont ces données-là. Et il y a des gens qui se font passer pour, notamment, votre banque. J'ai déjà des clients qui ont été arnaqués comme ça. La banque, mais c'est pas leur vrai banquier, les appelle et leur dit « Attention, il y a une fuite. Quelqu'un a vos coordonnées bancaires, par exemple. » Et en plus, comme ils ont toutes ces coordonnées, ils ont votre numéro de téléphone, ils ont votre date de naissance, ils sont très crédibles. Et la personne va donner encore plus d'informations au téléphone. Par exemple, s'il leur manque que le numéro de carte bleue, ils vont donner le numéro de carte bleue. Et les pirates vont partir avec votre argent.
Mais ça demande une vigilance de tous les instants. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas une journée que je ne reçois pas au moins deux SMS m'expliquant que, soi-disant, il faut absolument que je donne le code d'entrée de je ne sais quoi parce que je vais être livré. Ou... Je veux dire, c'est dingue. Comment font les gens ? D'abord, ça demande beaucoup de vigilance. À chaque fois, ça prend du temps. On se dit, mais attends, on a un doute quand même. Et puis ensuite, j'imagine qu'il y a certaines personnes qui tombent dans le panneau.
Ben c'est tout le paradoxe, c'est que déjà, les gens pour qui le numérique est un petit peu difficile aujourd'hui, parce que
Toutes vous ces... avez peut-être raison, en fait, quand on voit nos parents ou nos grands-parents qui nous disaient « Non, mais moi, je veux pas payer sur Internet, je suis pas sûr du truc. » Finalement, on se moquait un peu d'eux, mais ils avaient bien raison.
Oui, mais maintenant, ils ont pas le choix. Parce que normalement, s'ils veulent renouveler leur passeport, s'ils veulent agir sur leur permis, s'ils veulent payer leurs impôts, quasiment tout est fait pour que ce soit en ligne. Et si vous allez dans une agence, notamment aux impôts en ce moment, vous allez avoir des heures d'attente. Donc, on vous donne plus trop le choix.
C'est tout le scandale, en réalité. C'est que on nous oblige à passer effectivement par ces agences sans les avoir sécurisées avant.
Exactement, et c'est tout le paradoxe. Et les personnes les plus fragiles, celles qui sont finalement qui y vont à reculons, elles vont être encore plus exposées que nous qui avons un petit peu l'habitude de ces arnaques.
Claude est avec nous en direct, il nous appelle de Montpellier. Bonjour Claude.
Bonjour Apolline.
Claude, vous êtes très engagé, je crois, dans le monde associatif. Comment est-ce que vous vivez cette fuite de données, une nouvelle fuite de données? Parce qu'il y avait eu quand même, je reprécise, hein, il y avait eu déjà le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, le ministère des Sports et désormais, donc effectivement, l'agence pour le renouvellement de tous nos titres d'identité.
Oui, bah, tout ça, c'est bon, bah, nous le savons et comme l'a dit le monsieur qui intervient à l'antenne actuellement... Oui. Oui, c'est exactement ça. Et moi, je rebondis sur le piratage des données sur France Travail pour les personnes qui sont justement dans des situations déjà de problèmes dans leur vie courante. Mm-hmm. Si on leur rajoute encore ces problématiques-là, c'est compliqué pour elles. Et puis, elles ne savent pas toujours comment faire. Et puis, bon, même nous-mêmes, nous ne savons pas non plus tout à fait comment le résoudre.
C'est-à-dire, vous êtes confronté à cette question-là? Vous accompagnez, vous aidez des gens?
Oui, puisque nous travaillons, notre association s'appelle la Maison des Chômeurs à Montpellier.
Oui. Et, voilà, et vous les voyez, ils sont inquiets, effectivement, que leurs données aient été effuitées comme ça?
Bien sûr.
Ça crée encore plus d'insécurité et d'inquiétude. Je vais vous dire, Claude, c'est exactement le problème. C'est qu'on est censé pouvoir s'appuyer sur l'État. Et là-dessus, c'est exactement l'inverse. Donc, quand on est en situation de fragilité, on ne sait plus vers qui se tourner. Que faire? Que faire si on est inquiet? Si on finit par recevoir un certain nombre d'appels malveillants ou inquiétants, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, la première chose, c'est que normalement, l'État est censé signaler aux gens quand ils sont concernés par une fuite de données.
Alors, va recevoir quoi? Un SMS, un appel?
Alors normalement, ils doivent recevoir un SMS, un appel ou un mail. C'est par tout moyen que les services sont censés informer. Et donc normalement, et c'est étonnant parce qu'on en reçoit très peu, je ne sais pas s'il y en a parmi les auditeurs, mais il y a assez peu de gens finalement qui reçoivent une notification.
Est-ce que vous pensez que c'est parce que l'État minimise? Comme vous disiez tout à l'heure, on l'a su pour France Travail très longtemps après.
Peut-être parce que l'État minimise, peut-être parce que l'État sait même pas vraiment qui est concerné par quoi et n'a pas mis non plus en amont les dispositifs pour signaler aux gens véritablement
qu'est-ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que quand on entend Claude, effectivement, on se dit ça crée quand même une vraie inquiétude globale. Vous disiez on est obligé d'un côté de passer par la dématérialisation. Est-ce qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels on peut être vigilant?
Alors le premier point, c'est que si on est concerné ou si on a de fortes suspicions d'avoir été concerné par une fuite de données, il faut aller déposer plainte au commissariat ou sur Internet.
Qu'est-ce qui se passera franchement derrière?
Alors il se passera peut-être rien du point de vue procédural, mais si derrière vous êtes victime d'une attaque sur vos comptes en banque, sur une arnaque au faux conseiller, vous pourrez toujours ressortir la plainte que vous avez déposée et donc du coup la responsabilité de l'État.
En fait, c'est une sorte d'assurance que l'on prend en allant déposer plainte pour montrer effectivement le jour où éventuellement on est piégé, bah que c'est pas nous.
Exactement, vous pourrez montrer que vous avez été de bonne foi.
Merci beaucoup. Merci Maître Yann-Maël Larrère. Vous êtes avocat spécialiste du droit numérique. Merci à Claude aussi pour son témoignage. Il est 7h20. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, l'historien d'Apolline Matin. L'ancien Premier ministre Gabriel Attal veut partir en tournée en France, parcourir le pays. Il aspire aux plus hautes fonctions. Et finalement, c'est assez classique.
Eh oui, puisque de François Ier à Charles de Gaulle, les chefs d'État français adorent montrer que la France ne se résume pas à Paris et faire le tour de France.
Et François 1er, vous nous le dites donc dans un instant. Il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Dans le face-à-face, je reçois ce matin Dominique de Villepin. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22, c'est l'heure de remonter le temps, comme chaque jour, avec Arthur Chevalier. Arthur, on le voit bien, il y a notamment Gabriel Attal qui sort son livre jeudi. Et à cette occasion, il veut partir, aux surprises, à la rencontre des Français pour se décider sur sa candidature à la présidentielle.
Je veux passer plusieurs semaines à me déplacer partout en France, échanger avec les Français. C'est ce qu'a déclaré Gabriel Attal dans l'émission 7 à 8 sur TF1. En lançant son tour de France, il passe clairement à la vitesse supérieure pour la présidentielle.
Et donc, c'est toujours la même chose, essayer de gommer son image un peu parisienne.
Alors, il y a de ça, évidemment. Et effectivement, vous avez raison, ça n'est pas nouveau. Aller à la rencontre des Français dans les régions pour montrer qu'on est proche des gens, qu'on n'est pas enfermé dans sa petite tour d'ivoire, c'est un grand classique. Et c'est une technique qui remonte à la monarchie, puisque figurez-vous que les rois passaient leur temps à se déplacer. Paris était la capitale, oui, mais le roi n'avait pas de résidence fixe à Paris. Il passait son temps sur les routes avec toute sa cour, ses ministres, ses serviteurs, ses meubles, ses vêtements, sa vaisselle. C'était une vraie caravane.
Extraordinaire. Donc ils allaient de château en château, de ville en ville.
Exactement, c'était leur mode de vie. Et quand le roi arrivait dans une ville, ça donnait lieu à une grande cérémonie qui portait un nom. On appelait ça la joyeuse entrée. En général, tous les officiels de la ville étaient là. Alors il y avait un banquet. Parfois, on pouvait même construire un petit arc de triomphe pour honorer notre bon roi bien-aimé.
Cette tradition, elle sera reprise par les présidents de la République.
Et même par notre tout premier président de la République, hein, c'était Louis-Napoléon Bonaparte. Il a été élu en 1848 et il deviendra ensuite empereur sous le nom de Napoléon III. Et quand il était président, eh bien, il va très vite se mettre à voyager, hein, parcourir le pays. Alors lui, il faisait ça en train, puisque c'était les tout débuts du chemin de fer. Alors quand il arrivait dans les villes, bon, c'était un peu la même chose. Feu d'artifice, défilé militaire, en 22 ans de règne, il ira dans toutes les régions de France en parcourant plus de 5000 kilomètres.
Ça servait à quoi exactement ?
Bah, le but était clair, Apolline, hein, montrer qu'on n'appartient pas à la petite élite parisienne et qu'on fait vraiment partie du peuple. Hein. Louis-Napoléon Bonaparte ne s'en cachait pas. En 1852, alors qu'il est en visite dans la ville de Saint-Quentin, il discute avec des ouvriers et il leur dit, je cite, « Mes amis les plus sincères ne sont pas dans les palais, ils sont dans les ateliers, dans les campagnes. » Vous voyez, il y avait déjà un peu de populisme.
Oui, ça va ensuite devenir une vraie tradition politique.
Mais oui, ça va même devenir la base pour les prétendants à la présidence. Par exemple, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle revient en France en 1944. Et une des premières choses qu'il fait, alors que tous les Allemands n'ont même pas quitté tout le territoire français, eh bien justement, c'est un tour des grandes villes de France, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Orléans, Besançon. Il débarquait en uniforme, assistait à un défilé militaire, faisait un discours, ça symbolisait le rétablissement de l'autorité de la République sur tout le territoire.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, 7h24, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
À l'entrée joyeuse.
C'est exactement ça, l'entrée du roi. À 8h30 tout à l'heure sur RMC BFM TV, je reçois l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin.
Dominique Galouzeau de Villepin, de Bourbon et de Sicile. Père de la nouvelle copine de Jordan Bardella. Je déconne, non, c'est pas lui évidemment. Bref, vous recevez Dominique de Villepin, le célèbre ambassadeur du Qatar. Je déconne, mais moins. Bref, vous recevez Dominique de Villepin, le futur président de la République. Je déconne, je suis taquin ce matin. Ceci dit, lui, il y croit. Il laboure le terrain avec son mouvement La France Humaniste. La France Humaniste, ça fait un peu de nom de mutuelle, je trouve. On a un peu envie de lui envoyer un devis pour tes dents à La France Humaniste. La France Humaniste. Il y a une petite nostalgie autour des anciens Chiraciens en ce moment, où c'est moi. J'entends beaucoup, et pourquoi pas Villepin, oh, et Borloo. Et si c'était Barnier? C'est la nostalgie. Voilà, on pense à Villepin et Barnier parce qu'on veut retrouver les Toubifri, les sacs bananes, la tectonique, la Rousseau. Villepin, c'est Dorothée, finalement, pour nous. C'est nous, c'est les Hondamania, c'est les Pog. Les anciens Chiraciens, ils sont en tournée, là. Bientôt, on aura Juppé qui va revenir. Ça va être la tournée achetant des têtes de bite avec leur plus grand tube. Vous savez, quand j'étais Premier ministre, mais aussi les Français en ont assez. Sans oublier, vous savez, les Français. Moi, je vais à leur rencontre. Il y aura tous les hits. Ça va être génial. Alors, ceci dit, Villepin, il a la cote en ce moment, y compris chez les jeunes de gauche. Vous avez vu ça? Il va aller draguer en banlieue. Ça va être Dominique de Villepinte. Salam, les Français. Bien ou bien? Tu sais, ma gueule, la guerre en Iran, elle est pas mal boostée. Alors, il faut que Trump baisse les yeux. Le gadjo, il croit quoi? Il croit partout, c'est son terre-terre. Mais nous, l'Europe, on va le faire tourner dans une cave s'il continue à nous manquer de respect. Vous voyez, ça fonctionne.
J'y arrivais, franchement.
Petite pensée, tiens, aux victimes collatérales de cette guerre, on n'y pense jamais. Mais les audiences de CNews sont divisées par deux depuis le début du conflit. Faut dire que bon, t'allumes leur truc, tu retombes sur Christine Kelly qui reçoit Pascal Pro, tu reviens deux heures plus tard, c'est Pascal Pro qui reçoit Christine Kelly. Toutes les autres chaînes parlent de l'Iran et eux ils sont là. Non mais parlons des ZFE, les ZFE. Quand même, la gauche aime les ZFE. Les ZFE, mais c'est la gauche. Oui, la gauche. Mais la gauche qui aime les ZFE, car les ZFE sont de gauche. Eh oui, papy, oui. C'est l'heure de tes gouttes. Allez. Non mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez des ZFE et de la gauche, Philippe de Villiers? Non, écoutez, parlons franchement. Parlons de Trump. Assumons, que diable. Je sais que nous avons été très favorables à Donald Trump, mais là, il faut arrêter cet homme. Il faut qu'il arrête de bombarder les Arabes. Il va finir par les rendre sympathiques. Il va nous foutre en l'air 10 ans de boulot ici. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut reparler des ZFE et de la gauche. Et des ZFE aussi. Et de la gauche qui fait des ZFE.
Allez, il est 7h28. Arnaud Demange, que l'on retrouve d'ailleurs tout à l'heure, à 8h20. Il est 7h28. Dans un instant, la météo et le journal. Tiens, notez qu'à 7h50, ce sera la voix de gauche. Ce matin, Cécile Duflot s'intéresse au recyclage des déchets par les professionnels. Laissons les artisans tranquilles. Elle vous le dira tout à l'heure, 7h50. Il est 7h28 pour l'heure. À tout de suite. 7h30, il fait beau.
Oui, c'est le soleil qui va s'imposer quasiment partout. Aujourd'hui, on aura juste quelques nuages entre les Hauts-de-France et le Grand Est, avec éventuellement 2-3 gouttes. Un petit voile nuageux en Bretagne et quelques averses uniquement en montagne cet après-midi, avec même quelques orages sur les Pyrénées. Les températures, toujours un grand contraste nord-sud. Cet après-midi, seulement 13 à 20 degrés sur la moitié nord. C'est un peu frais pour la saison. 13 degrés à Cherbourg, 17 à Paris. Mais au sud, c'est estival, 20 à 28 degrés. 27 degrés pour Toulouse, 25 à Marseille, et on ira jusqu'à 30 degrés à Biarritz, digne d'un mois d'août, cette température.
7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal présenté par Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'utilisation des transports en commun augmente. RMC vous dévoile des chiffres ce matin, conséquence de la hausse des prix des carburants. À Pau, le procès du meurtrier présumé d'Agnès Lassalle s'ouvre aujourd'hui, 3 ans après la mort de l'enseignante poignardée en plein cours par un de ses élèves. Puis en foot, le PSG affronte le Bayern Munich dans une semaine. Certains billets montent à des centaines d'euros. Pas de quoi décourager certains supporters, vous allez l'entendre.
À cause des prix du carburant, les Français prennent de plus en plus les transports en commun.
Et oui, c'est une enquête RMC. Alors que ce matin, le sans-plomb coûte 1,95€ en moyenne et le gazole 2,15€. Ces chiffres d'utilisation des transports en commun, ils sont en hausse, surtout dans les villes où les transports sont gratuits, Victor Girard.
A commencer par Niort, l'une des premières agglomérations à avoir instauré la gratuité des transports en 2017.
Au mois de mars, on a à peu près 25% de fréquentation supplémentaire par rapport à la moyenne des 15 derniers mois.
Se félicite Éric Leroux, le directeur de Transdev Niort Agglomération en charge de ces transports.
Les conducteurs nous ont dit effectivement qu'il y avait des nouveaux venus dans les bus, les actifs qui considèrent que la gratuité des transports correspond à du pouvoir d'achat en plus, et ça c'est pas négligeable en ce moment.
Niort a donc dû s'adapter pour faire face à ce nouvel afflux de passagers.
Nous avons sorti un peu plus de véhicules de grande capacité sur les lignes plutôt que des véhicules standards.
Et l'agglomération est loin d'être un cas isolé. À Montpellier, la fréquentation des transports gratuits a déjà bondi de 8% depuis début mars. Quant à Dunkerque, l'une des villes pionnières en la matière, la guerre en Ukraine en 2022 avait déjà eu un effet similaire.
Ce qui est intéressant, c'est que ça ne diminue pas après.
Analyse Patrice Vergritte, le maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque.
Il faut souvent un choc pour changer ses habitudes. Et après, une fois qu'on a l'habitude, en grande majorité, on la conserve. C'est comme ça que fonctionne le transport.
Ici, la fréquentation des transports en commun gratuits a presque triplé depuis sa mise en place en 2018.
Et aujourd'hui, Emmanuel Macron va recevoir à Paris le Premier ministre libanais Nawaf Salam. Le président dit vouloir rappeler son attachement au respect du cessez-le-feu au Liban. Au Pakistan, par contre, on ne sait toujours pas si les États-Unis et l'Iran échangeront bien aujourd'hui. Une délégation américaine doit décoller dans la journée pour ces négociations, mais Téhéran n'a toujours pas confirmé sa présence. Autre conséquence de la guerre au Moyen-Orient, en France, le gouvernement réunit ce matin à 9h un comité d'alerte des finances publiques. Il pourrait annoncer jusqu'à 6 milliards d'euros d'économies pour éviter tout dérapage budgétaire. Le procès du meurtrier présumé d'Agnès Lassalle s'ouvre aujourd'hui à Pau. Cette enseignante poignardée en plein cours par un élève en février 2023. Son compagnon Stéphane Voirin avait marqué les esprits en dansant devant son cercueil pendant son enterrement. Au cœur du procès qui va durer 3 jours, donc il faudra établir la responsabilité du jeune homme âgé de 19 ans aujourd'hui et juger son état psychiatrique, car le suspect assure qu'une voix voix dans sa tête l'a poussé à faire du mal à sa professeure. Il a subi 3 expertises psychiatriques aux conclusions toutes différentes, explique son avocat, maître Thierry Sagardo-Ito.
Nous avons 3 analyses qui ne parviennent pas à se mettre d'accord. Celle qui le déclare responsable, celle qui le déclare altéré dans son discernement et celle qui le déclare aboli dans son discernement. Comment voulez-vous décortiquer rationnellement un geste face à un accusé qui vous parle de petite voix, qui vous parle de troubles mentaux? C'est là toute la complexité de ce dossier, parce que de mobile, il n'y en avait aucun. En revanche, d'énigme sur le plan psychiatrique, elle est clairement posée.
Des propos recueillis par Julie Bro du service police-justice de RMC. Une découverte peu commune dimanche soir dans un canal à Roubaix dans le Nord. Un pêcheur a sorti de l'eau un crocodile. L'animal était mort, attaché à un poids. L'espèce est pourtant strictement réglementée en France. Récit d'Antonin Audion.
Armé d'un puissant aimant relié à une longue corde, Belkacem a l'habitude de sillonner les cours d'eau. Mais au lieu des vélos, des barres de fer ou des panneaux de circulation qu'il remonte habituellement...
Je sens mon aimant qui s'aimante fort et à quelque chose de lourd. Franchement, j'ai pensé un peu à un genre de cadavre. C'était dans un sac de couchage. Mon aimant, il était accroché à un halter. Et je prends un cutter et j'ouvre... Et là, je vois des écailles. Je prends peur sur le coup et j'ouvre un peu plus. Et là, un crocodile enchaîné. Ça sentait mauvais.
Belkacem décide ensuite de lancer l'alerte.
J'ai commencé par appeler les pompiers qui, au début, pensaient que c'était une blague. Qui me disaient, vous êtes sûr c'est un vrai? C'est pas en plastique ou en fer?
Le pêcheur allemand reste choqué par cette découverte d'un crocodile d'1m20.
J'ai dormi à 6h du matin. Pourtant, j'étais couché dans mon lit, mais c'est horrible quand même.
Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille et l'autopsie de l'animal doit aider à comprendre les causes de sa mort et les raisons de sa présence dans le canal.
En foot, Lens reçoit Toulouse ce soir à 21h10 pour le début des demi-finales de Coupe de France, à suivre bien sûr sur RMC. Et la semaine prochaine, le PSG affrontera le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça sera au Parc des Princes et le prix des places a explosé. Mais pas de quoi décourager certains supporters que vous avez rencontrés, Nicolas Pelletier.
Oui, à 19 ans, Joachim s'est fait un petit plaisir.
J'ai payé ma place 470 euros. Je suis en catégorie 15 dans le virage qui fait le lien entre Borély et Boulogne.
À l'approche de son anniversaire, ce supporter parisien ne voulait pas louper ce match exceptionnel.
Je craque pas souvent autant pour du foot. J'ai simplement envie de profiter de la période qu'on vit actuellement à Paris, qui est quand même assez exceptionnelle. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis fait plaisir sur la place.
Tous les supporters ne craquent pas. Hugo est étudiant et forcément déboursé autour de 500 euros pour voir jouer son club de cœur fait réfléchir.
C'est la moitié de mon salaire aujourd'hui. Donc si je veux aller voir le match, il va falloir que j'enlève l'argent de mon livret A pour aller voir un match de foot. C'est quand même compliqué quand on est étudiant.
De son côté, Ayoub, 22 ans, a peut-être trouvé le meilleur plan.
Je préfère me faire une soirée à la maison, entre amis ou entre familles, avec un bon repas. Moi, à l'heure actuelle, je ne dépasse pas 150 euros.
Et au rayon des places les plus chères, il y a ce lot de 4 tickets situés tout en bas d'une tribune latérale dans l'axe du terrain. Comptez 9 440 euros tout compris pour être au plus près de l'action mardi prochain.
Puis Victor Wembanyama, sacré défenseur de l'année en NBA, au lendemain de sa victoire en play-off avec San Antonio. C'est le premier joueur de l'histoire à être élu à l'unanimité.
Et puis le quintet, c'est à Compiègne.
Oui, il se déroule à 13h55. Le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Leur favori est le numéro 14, Tréplumeur. Leur outsider est le numéro 13, Lady Anjouine.
C'était le journal de Solène Gardré. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Les prix dans les rayons vont-ils augmenter de 4 à 5 % dans les prochains mois? C'est en tout cas ce qu'assure l'UFC Que Choisir, qui a calculé l'impact de la guerre au Moyen-Orient. Bonjour Jean-François Loiseau. Vous êtes le Bonjour. Président de l'ANIA. L'ANIA qui regroupe 23 000 grandes marques de l'agroalimentaire en France. Et face à la hausse des prix des matières premières, vous voulez rouvrir les négociations avec la grande distribution. Vous nous l'expliquez dans un instant. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Les prix dans les supermarchés vont-ils augmenter dans les semaines qui viennent ? Plus 50% pour le polystyrène, indispensable pour les pots de yaourt. Plus 56% pour le polypropylène qui est utilisé dans les pots de crème. Avec la crise au Moyen-Orient, l'augmentation de tous ces prix des matières premières n'est plus soutenable pour une partie des industriels. Et c'est ce que vous nous dites ce matin. Jean-François Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'ANIA, on connaît bien maintenant. L'ANIA, c'est vous qui regroupez 23 000 entreprises de l'agroalimentaire en France, toutes ces grandes marques de notre quotidien, toutes ces marques que l'on achète partout et à tout moment de notre vie, des PME mais aussi des géants de l'industrie. Vous demandez la réouverture des négociations commerciales. Je rappelle pour tous ceux qui nous écoutent qu'au 1er mars dernier, vous vous êtes mis d'accord. C'est-à-dire toutes vos marques ont négocié avec Leclerc, Carrefour et autres Super U avec des prix de commande. Et puis là, aujourd'hui, vous dites, en fait, les prix auxquels il était prévu que vous nous achetiez nos produits, eh bien, ils ne sont plus soutenables.
Alors, en fait, ces prix ne sont pas soutenables parce que la guerre entraîne des conséquences majeures, et tout le monde le sait maintenant, hein, sur des sujets de logistique ou des emballages, vous l'avez dit, parce que le plastique, c'est le pétrole, le gaz qui augmente, et donc, ce sont des facteurs que les industriels que je représente doivent impacter auprès de la distribution. Mais ce n'est pas 4 à 5% comme je l'ai entendu. Le prix des emballages...
C'est l'UFC de choisir qui évoque 4 à 5% de plus d'inflation dans les rayons.
Nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut des ajustements techniques parce qu'effectivement, l'énergie a augmenté de façon très conséquente. Quand le prix du carburant à la pompe monte de 50%, bon, ben, malheureusement, on subit. Nous, ce que nous demandons avec ces ajustements techniques, ce sont certainement quelques centimes d'augmentation, parce que le coût des emballages dans un produit final, c'est, je dirais, une petite partie du coût final. Ce n'est pas la totalité du produit. Mais ce que nous voulons faire, c'est sensibiliser les distributeurs et les pouvoirs publics, et d'ailleurs, je dirais, les consommateurs, d'une manière générale, au fait qu'on ne peut pas rester en l'état, parce que sinon, c'est la survie de ces milliers d'entreprises avec des centaines de milliers d'emplois derrière.
La grande distribution, pour l'instant, refuse.
Alors, la grande distribution, elle a fait un petit aller-retour. Elle a dit qu'il fallait quand même regarder de près un peu ce qu'il en était. Et moi, j'ai bien écouté Michel-Édouard Leclerc hier. Il a dit qu'il pourrait peut-être y avoir... Vous voyez, il a posé pas mal de conditionnels. Et en fait, il a quand même raison, parce que il faut qu'on regarde la réalité. Nous, ce qu'on demande, c'est un principe de responsabilité, je dirais, quand le livret A change parce que le taux de l'argent change au niveau européen, bon, il y a une décision qui est prise et les Français acceptent cette décision. Nous, voilà ce que nous demandons. C'est de l'ajustement technique parce que le coût des emballages augmente, parce que la logistique, elle est beaucoup plus compliquée, parce que le gaz a beaucoup augmenté, les camions réfrigérés coûtent beaucoup plus cher. Et donc, nous devons impacter. Je rappelle quand même que l'agroalimentaire aujourd'hui, c'est l'industrie qui a le moins de rentabilité. Et la France est vraiment un cas à part pour ça. Donc, soyons très responsables.
Soyons très responsables, dites-vous, et ça vous l'adressez évidemment à la fois, on l'a compris, à la grande distribution, mais aussi aux consommateurs, que vous préparez à cette idée que le coût des produits du quotidien va potentiellement augmenter. Attention, vous dites pas du tout de l'ordre de 4 à 5%, sauf qu'on ne sait pas où ça va nous mener. C'est-à-dire que, évidemment, la question, c'est que si on rouvre ces négociations, ça n'a été fait qu'une fois, me semble-t-il, au moment du début de la guerre en Ukraine. Et ensuite, on a eu le sentiment que c'était le premier signal du début de l'inflation.
Alors, nous ne savons pas effectivement de combien. Moi, je pense pas qu'il faille, je dirais, faire peur aux consommateurs. Je pense qu'il faut que chacun comprenne que oui, il y aura ça et là. Et ce sera d'ailleurs au cas par cas. Hein. Ce n'est pas une réouverture de négociations nationales, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Les choses sont très cadrées, hein, ça dure 3 mois, on présente toutes les gammes. Là, ce sont des ajustements techniques. Et d'ailleurs, si baisse du pétrole ou de l'énergie, parce que la guerre se calme un peu, il y a, eh bien nous baisserons automatiquement les prix. Je pense qu'il faut qu'on se mette, je dirais, dans un esprit avec les distributeurs. On impacte les hausses de quelques centimes nécessaires, et dès que ça baisse, on baisse ces mêmes produits parce que justement l'énergie aura
baissé. Alors pardon, mais c'est vrai que c'est quand même rare que ça baisse, quoi. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que c'est souvent
plus que ça.
Non,
c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. En 2021, il y avait eu un choc un peu particulier à cause de la raréfaction de produits agricoles, c'est du blé dur pour faire des pâtes. Et moi, je m'en souviens très bien parce que ça avait fait l'objet de réunions avec le ministre de Normandie. où tout le monde avait été un peu responsable de ces actes, entre guillemets, et les prix, une fois que la récolte l'année suivante avait été correcte, ben les prix avaient
baissé. Le ministre de l'époque, effectivement, Julien de Normandie, qui était ministre de l'Agriculture. Philippe est avec nous en direct, qui nous appelle de Cazillac, dans le Lot. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour, bonjour Apolline, et bonjour à toute l'équipe.
Vous êtes vous-même...
De nous donner la parole sur le territoire.
Voilà. Avec grand plaisir. Vous-même, vous êtes
bonjour,
à la fois agriculteur et boulanger.
Bonjour.
Comment vous réagissez ? Allez-y, je vous écoute, Philippe.
Allez, voilà, moi je voulais réagir parce que ça nous touche vraiment un peu, le monde agricole. Parce que,
évidemment.
Moi, je comprends très bien l'agroalimentaire a aujourd'hui des marges très faibles. Mais moi, j'ai une peur terrible, c'est que dans cette affaire, l'agriculture est entre le marteau et l'enclume. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Parce qu'aujourd'hui, les industriels, aujourd'hui, ils veulent tout faire pour faire augmenter les prix aux distributeurs. Et les distributeurs ne veulent pas augmenter. Donc, j'ai une peur terrible qu'on est en train de vouloir baisser le prix du produit agricole. Regardez dans le lait. On a pris 80 euros de baisse dans les producteurs laitiers. Aujourd'hui, ils veulent tout faire pour que la viande baisse. Parce qu'ils veulent ouvrir les portes sur le Mercosur partout. Aujourd'hui, mais le monde agricole ne pourra pas supporter un centime de baisse, au contraire, parce que tout ce qu'on achète aujourd'hui, tout ce qu'on achète dans le matériel, dans l'approvisionnement, l'équipementier, tout a pris 30 ou 40% de hausse. Donc aujourd'hui, l'agriculteur est très, elle est comme l'agroalimentaire, elle est à fil tendu, et on va perdre des soldats, et on va perdre la souveraineté alimentaire. Si jamais on baisse les prix, de revient sur le monde agricole. Voilà.
Donc vous vous retrouvez effectivement, Philippe, à la fin, c'est quand même en effet la grande distribution qui va décider. Philippe, je voudrais que Monsieur Loiseau puisse vous répondre. Au fond, là, on a les deux morceaux, on a deux morceaux sur trois, j'allais dire de la chaîne, c'est-à-dire Philippe, l'agriculteur, Jean-François Loiseau, les industriels de l'agroalimentaire et la grande distribution qui, elle, pour l'instant, quand même coince. Si la grande distribution coince et que vous ne vous retrouvez pas avec vos marges, effectivement, est-ce que vous pourriez pressuriser encore davantage les agriculteurs, Jean-François
Loiseau ? Non, parce qu'il y a des lois qui ont été votées. Ces lois s'appellent EGalim. Et ces lois EGalim, elles sont très bien et elles sont nécessaires parce qu'elles protègent le revenu des agriculteurs. Et il faut qu'elles les protègent. La difficulté que nous avons, parce qu'effectivement, il y a de la concentration dans la distribution, c'est que beaucoup de discussions commerciales, d'ailleurs je rappelle que ce sont les distributeurs qui font les prix en rayon, ce ne sont pas les industriels, beaucoup de ces règles commerciales se négocient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au-delà de la France, en Europe. Et ça, ce n'est pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, on demande aux industriels de négocier le prix du lait ou le prix des yaourts en Belgique ou en Espagne. Et c'est ça qui nous amène à avoir une détérioration de nos marges.
Le jeu est faussé. Et d'ailleurs, c'est pas forcément ce matin qu'on va rouvrir aussi ce débat, mais extrêmement passionnant parce que effectivement, on le sent bien. Au fond, moi, j'ai le sentiment, quand je vous entends d'ailleurs tous les deux, hein, Philippe et Jean-François Loiseau, que c'est comme s'il y avait un plafond. Ce plafond, c'est la grande distribution. Et vous, en dessous, bah, vous aurez beau avoir plus de coûts, etc. Si ce plafond est bloqué, c'est-à-dire si la grande distribution refuse effectivement cette souplesse-là, le plafond de la grande distribution, en plus, il joue le beau rôle. Parce que nous, évidemment, les Français, on est très contents qu'ils bloquent vos prix, parce qu'on se dit que ce sera moins cher dans les rayons. Sauf que ensuite, c'est vous qui allez, pardon l'expression, mais crever. Quand vous disiez on va perdre des soldats en route, Philippe, c'est bien ça que vous dites, Philippe.
Bien évidemment, on va pas les soldats. On a perdu en quelques années, on a perdu 1 million de bovins. On est aujourd'hui moins de 2%. Vous savez, quand on dit 400 000 agriculteurs, vous savez combien de producteurs en vrai, en réalité, des vrais professionnels, on est moins de 200 000. Et d'ici 10 ans, on va être 100 000. Je veux dire, aujourd'hui, et quand, ce qu'il faut rappeler, c'est quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, dans les pays du Golfe. En cas de conflit dans le monde, le grenier de l'Europe, le stockage d'alimentaire, c'est 10 jours. Ça veut dire qu'en moins de 10 jours, on n'a plus rien dans les rayons pour se nourrir. Je veux dire, aujourd'hui, si on perd la souveraineté alimentaire, on a beau avoir des munitions, mais si les soldats, ils n'ont pas à manger, ils n'iront pas au combat.
Exactement, donc ça, merci.
Est-ce que je peux ajouter un point ?
Allez-y, Jean-François Loiseau.
Très rapidement, je voudrais rappeler que l'alimentaire, c'est 12% maintenant du panier du consommateur. On n'est plus sur 25 à 30%. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres sujets à traiter. Ce n'est pas l'alimentaire qui doit être la variable d'ajustement de l'inflation. Premier
merci.
Point. Deuxième point, l'État a un rôle majeur, parce que je vais défendre les distributeurs. Il n'y a pas que l'alimentaire dans la vie. Les charges aujourd'hui, les charges patronales, les charges sociales pèsent sur toutes les entreprises. Et il faudrait mieux veiller à faire plus de salaire net que de salaire brut aux salariés pour leur permettre d'acheter de l'alimentaire et protéger la souveraineté alimentaire et agricole.
que le travail paye davantage. Ça, pour le coup, on est d'accord que c'est une des questions fondamentales aujourd'hui, à laquelle d'ailleurs tous les hommes politiques auront à répondre. Merci Jean-François Loiseau, président donc de l'ANIA. Vous regroupez 23 000 entreprises de l'agroalimentaire en France, d'avoir été avec nous ce matin. Et merci à Philippe pour son témoignage et être venu interpeller aussi Jean-François Loiseau. Il est 7h51 sur RMC et RMC Story. Et comme tous les mardis, c'est la voix de gauche sur RMC. Cécile Duflot qui nous rejoint. Bonjour Cécile.
Bonjour,
une réforme
Pauline.
Qui doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain, ce sont les déchets du bâtiment qui ne pourront plus être recyclés gratuitement pour les professionnels. Ça pose de vrais soucis, Cécile.
Oui, et les artisans du bâtiment tirent la sonnette d'alarme parce que la réforme va compliquer leur travail. Ils ont en partie raison, il faut les laisser bosser.
Vous nous le dites dans un instant, 7h51.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h53 sur RMC et RMC Story. Dans un instant, la voix de gauche. Mais d'abord, le bonus, Mathieu. La Coupe du Monde qui veut s'inspirer du Super Bowl.
Oui, avec Coldplay, qui sera à l'affiche d'un grand show de la mi-temps de la finale en juillet prochain. Oui, un show de la mi-temps, comme pour la finale du championnat de foot américain, pour cette Coupe du Monde de foot américaine, elle-même, hein, aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Alors, on ne sait pas encore quel impact ça pourrait avoir sur la durée de la pause. Le patron de la FIFA, Gianni Infantino, promet un grand show avec Coldplay à la baguette, donc d'autres artistes dont on ne connaît pas encore le nom. Finale qui se jouera au MetLife Stadium le 19 juillet, temple de la NFL qui accueille déjà les Giants et les Jets de New York. 82 000 places du foot, mais aussi du spectacle, dont vous ne manquerez évidemment rien à l'écoute d'RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
7h54, mardi. Voix de gauche, Cécile Duflot. Bonjour Cécile. Pour lutter Bonjour. Contre les dépôts sauvages, les pros du bâtiment peuvent recycler gratuitement leurs déchets. Sauf qu'une réforme prévoit de mettre fin à cette gratuité. Pour vous, Cécile, attention, attention, danger. Il faut laisser bosser les artisans du bâtiment.
Oui, parce que c'est un très gros sujet. Le traitement des déchets de chantier est un très gros problème, les dépôts sauvages. Je suis sûre, Apolline, que ça vous est arrivé, parce que ça nous est tous arrivé, de croiser dans un chemin en forêt un tas de morceaux de briques et de gravats, voire un vieux bidet à moitié cassé. Eh ben, c'est ça, les dépôts sauvages. Et il y a 9 communes sur 10 qui sont concernées en France, et ça représente, imaginez-vous bien, par an, 20 kilos de déchets par personne. Donc un très gros sujet.
Donc le problème, c'est quoi? C'est le recyclage des déchets? Quel est le problème à vos yeux?
Ben, c'est l'histoire d'une loi qui remonte en fait à un drame, la mort du maire de Signes en 2019, qui avait été écrasé par la camionnette d'un maçon qui venait de décharger des gravats, et le maire s'était indigné. Et à la suite de ça, dans une loi qui s'appelle la loi AGEC, on a mis une piste intéressante, c'est de dire en fait on va faire appliquer le principe pollueur-payeur, on va faire financer par les producteurs la récupération des déchets de chantier des artisans pour qu'ils aient des endroits pour déposer ces déchets gratuitement à proximité. Et là aussi, il y a un enjeu, à proximité de l'endroit où ils travaillent.
Mais ça se passait comment avant, pardon?
Ben justement, c'était très compliqué parce qu'avant, il y avait les déchets ménagers, ceux que vous avez chez vous, qui partent avec les éboueurs ou alors dans des grands containers. Il y a les déchetteries et puis il y a les autres déchets. Et ceux-là, ils étaient gérés par des centres, mais parfois très éloignés, payants. Et ces points de collecte, ils étaient difficilement accessibles. Et pour les petits artisans, parce que c'est d'eux qu'on parle, les gros et les très grosses entreprises, elles sont habituées, elles gèrent l'ensemble de la filière. Ben c'était cher ou c'était très compliqué, très éloigné. Donc la loi rendait les choses beaucoup plus simples et totalement gratuites.
Mais alors quel est le problème ?
Eh ben le problème, c'est que ça a hyper bien marché. C'est que justement ça s'est développé. Il y a de plus en plus de points. On est encore loin du compte. Mais là, il y a ceux qui financent la récupération de ces déchets qui trouvent que ça coûte trop cher en gros. Et plus exactement, ceux qui financent les éco-organismes. Parce que depuis un certain temps existent les éco-organismes. Vous les connaissez forcément parce que vous avez vu sur le prix d'un lave-vaisselle ou d'un téléphone avec une petite ligne en
oui,
plus,
le
dont 0,99. Pour éco-participation. Tout le monde a vu ça et ça peut aller jusqu'à 3 euros, même 8 euros. Et ben ça, c'est ce qui permet de financer le traitement de la collecte et les éco-organismes. Ben là, en ce moment, ils râlent.
Ils râlent, donc le problème, c'est pas les déchets, c'est les éco-organismes.
Et oui, je pense que c'est eux. Et pourtant, c'est un gros système parce qu'ils collectent aujourd'hui 2,5 milliards d'euros et 7 milliards d'euros à l'horizon 2029. Mais c'est un système bizarre parce que c'est une mission de service public. Vous l'avez vu, c'est obligatoire. Vous devez payer votre éco-participation. Mais c'est géré par des structures privées. Et il y a un vrai sujet sur la manière dont elles sont gérées, sur leurs coûts internes, sur leur capacité à se développer. Donc je pense qu'il faut mettre le nez là-dedans parce qu'il y a de quoi financer le fait que les gens travaillent bien et notamment les artisans. Parce qu'ils n'ont pas de raison de repayer ce coût alors que les consommateurs l'ont déjà payé. Le principe pollueur-payeur, il doit aller jusqu'au bout et les éco-organismes doivent faire sérieusement et bien leur travail.
Et ne pas s'en défausser donc sur les artisans. Merci beaucoup Cécile Duflo, voix de gauche sur RMC qui alertait donc ce matin. Demain à votre place, ce sera la voix de droite. Comme tous les mercredis, ce sera Louis Sarkozy. Dans un instant, le journal de 8h et la météo. Il est 7h57, à tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
7h59, il fait beau.
Oui, un soleil qui va dominer presque partout aujourd'hui. Toujours ces hautes pressions, cet anticyclone. Mais quelques nuages débordent quand même près des frontières du nord et du nord-est. Ça donnera un ciel parfois gris entre les Hauts-de-France et le Grand Est, voire 2-3 gouttes. Ailleurs, un temps très sec, à peine voilé sur la pointe bretonne. Et peut-être, comme les jours précédents, quelques averses en montagne cet après-midi, voire un orage sur les Pyrénées. Toujours ce vent de nord-est sur la moitié nord qui rafraîchit un peu les températures. On a 0 degré seulement ce matin à Reims. Et cet après-midi, on partira de 13 degrés à Cherbourg pour aller jusqu'à 30 degrés à Biarritz. On est sur la moitié sud, 4 à 9 degrés au-dessus des normales, 28 à Bordeaux. Et puis sur la moitié nord, souvent entre 15 et 20 degrés, 17 pour Paris.
Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous, il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À la une ce matin, la violence des jeunes à travers le procès de l'adolescent qui avait poignardé une enseignante en 2023 dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz. Le meurtre d'Agnès Lassalle, souvenez-vous de son compagnon qui avait ému la France. Mais il s'exprime ce matin. Dans ce journal, on va vous donner les dernières infos sur la guerre au Moyen-Orient. Donald Trump parle trop, vous allez voir que c'est pas qu'une impression. Et sur la première demi-finale de Coupe de France de football aussi ce soir entre Lens et Toulouse.
C'est donc le début du procès d'une affaire qui avait bouleversé la France.
Oui, vous vous souvenez certainement du meurtre d'Agnès Lassalle, prof d'espagnol, poignardée donc en 2023 dans un lycée de Saint-Jean-de-Luz par un élève de 16 ans à l'époque qui disait avoir entendu une voix. L'affaire avait d'autant plus ému que le jour des obsèques, eh bien le compagnon de l'enseignante avait dansé. Il avait dansé autour du cercueil avant d'être rejoint par des amis de l'enseignante Julie Brault du service police-justice à RMC. On entend la musique en fond. Eh bien, il s'exprime 3 ans après la mort de sa compagne.
3 ans sans Agnès, c'est long, souffle Stéphane Voirin. La voix chevrotante, le compagnon de la professeure assassinée, espère que ce procès lui servira enfin d'exutoire.
Et avec beaucoup d'impatience que j'attendais ce procès pour entendre la reconnaissance d'un acte violent, entendre ma qualité de victime.
Plus encore, il attend une prise de conscience quant à la violence qui persiste derrière les grilles des écoles.
Malheureusement, Agnès n'est pas la seule. N'est que la première. Dieu merci, certaines arrivent à s'échapper et peuvent encore en parler. Et je voudrais qu'on ait une pensée pour elle et je voudrais qu'elle ne soit surtout pas oubliée.
Mais les débats devraient avant tout se concentrer sur l'état psychologique de l'assassin présumé, alors que la cour va devoir trancher sur l'abolition ou non de son discernement lorsqu'il a poignardé sa professeure d'espagnol. Stéphane Voirin espère surtout qu'il assumera les conséquences de son geste.
Il est normal d'avoir à faire face à ses responsabilités, mais de ne pas oublier qu'à ce procès, Agnès Lassalle et elle, la victime.
Quoi qu'il en soit, à l'issue du procès, Stéphane Voirin s'est enfin promis de profiter de la vie et surtout d'en profiter pour deux.
Il est 8h03 sur RMC et c'est le flou ce matin tout simplement au Moyen-Orient. On ne sait même pas s'il va y avoir des discussions entre États-Unis et Iran comme c'était prévu normalement au Pakistan. Romain Houk pour RMC, vous allez nous détailler tout ça. Il y a la presse américaine qui écrit ce matin que Donald Trump parle beaucoup trop en ce moment et que ça a des conséquences.
Bah oui, les sorties récentes de Donald Trump dans la presse et sur ses réseaux sociaux auraient carrément fait capoter un accord de paix pourtant tout proche, affirment nos confrères américains de CNN. Les Iraniens n'auraient pas apprécié en fait qu'il négocie aussi par le biais des réseaux sociaux, ni qu'il affirme avoir trouvé des points d'accord quand ceux-ci n'auraient même pas encore été validés par l'Iran. Et avec le regain de tension du week-end, on ne sait même pas si les pourparlers censés démarrer aujourd'hui au Pakistan vont vraiment avoir lieu. Une délégation américaine doit se rendre sur place, mais les Iraniens affirment qu'ils ne viendront pas s'asseoir à la table des négociations tant que les États-Unis n'auront pas levé leur blocus dans le détroit d'Ormuz. Et Donald Trump lui répète qu'il ne le lèvera pas tant qu'un accord ne sera pas trouvé avec la République islamique. L'heure est plutôt aux menaces de part et d'autre. Si aucun accord n'est trouvé d'ici la fin du cessez-le-feu demain soir, alors beaucoup de bombes exploseront, dit Trump. Nous sommes préparés à abattre de nouvelles cartes sur le champ de bataille, répond l'Iran.
Alors, conséquence de cette guerre chez nous en France, le gouvernement dit ce matin s'attendre à un dérapage des finances publiques prévu entre 4 et 6 milliards d'euros. Voilà ce que vient de dire le ministre de l'économie Roland Lescure en annonçant des annonces ce soir de la part du Premier ministre Sébastien Lecornu. L'autre conséquence, eh bien, c'est qu'on s'adapte. Encore une fois, de plus en plus de Français utilisent les transports en commun pour éviter en fait de prendre la voiture et donc d'avoir à faire le plein de leur voiture. Plus 25% de fréquentation dans les transports à Niort, plus 8% à Montpellier, plus 5% et même un record d'utilisation à Dunkerque en début de mois, que des villes où les transports sont gratuits. C'est RMC qui a enquêté et qui peut donc vous révéler ces chiffres ce matin. Vous vous demandez peut-être là, au moment où on se parle, si vous êtes concerné par la cyberattaque visant le portail de l'Agence nationale des titres sécurisés. Portail ANTS, comme on l'appelle, qui édite les permis de conduire, les cartes d'identité, les passeports et même les cartes grises. Des données ont été dérobées à la mi-avril, on le sait depuis hier, dans cette cyberattaque et les personnes touchées sont en train d'être informées, Amélie Courtet.
Si vous êtes concerné, votre nom, prénom, adresse mail, date de naissance, identifiant de connexion ou numéro de téléphone sont susceptibles d'avoir été volés et vendus sur le dark web. Dans ces cas-là, pas grand-chose à faire.
Malheureusement, c'est fait. Les acteurs malveillants ont accès à cette information.
Éric Schmitlin est expert en cybersécurité.
Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question de que pourrait faire un acteur malveillant avec cette information. L'acteur malveillant pourrait être tenté de vous envoyer des SMS. Vous avez gagné un voyage, vous avez un remboursement d'impôt en attente. Enfin, en tout cas, un prétexte un peu contextualisé avec votre nom, prénom, adresse email, enfin des informations qui rendent ça crédible, pour derrière vous faire commettre une action qui peut être envoyer des informations, une carte bancaire, votre mot de passe ou autre.
Pour éviter les fraudes, un conseil.
Plutôt que de répondre aux mails, allez soi-même chercher l'information. Par exemple, vous recevez un mail des impôts, vous ne savez pas si c'est vraiment les impôts. Ce que vous faites, c'est que vous allez vous connecter sur le site des impôts et s'il y a un message des impôts, bah, vous le verrez dans votre espace.
La vigilance doit être permanente, dit-il, dans les prochains jours comme dans les prochains mois.
Alors dans le sud de la France, c'est l'Agence régionale de santé qui appelle à la vigilance et qui ouvre une enquête après une épidémie de gastro-entérite touchant plusieurs centaines de personnes dans la commune de Rousset. On parle quand même de 300 personnes, hein, d'après le journal La Provence, près d'Aix-en-Provence, Rousset. C'est sans doute à cause de l'eau du robinet. Voilà pourquoi des milliers de bouteilles sont distribuées aux habitants en ce moment, nous dit la correspondante d'RMC dans la région, Anna Jojard.
Dans la salle des fêtes de Rousset, les habitants se succèdent pour récupérer de l'eau minérale en bouteille.
J'ai pas pris l'eau depuis samedi.
Depuis samedi.
Vendredi, je suis venu.
Philippe est tombé malade avant l'interdiction de consommer l'eau du robinet décrétée jeudi.
Ah ben c'était terrible. On se demandait ce qui se passait puisque on a eu des symptômes, si vous voulez, d'un coup. On a pris des médicaments. Bien sûr, les médicaments, on les a pris avec quoi? Avec de l'eau. Donc c'était en fait un cercle sans fin. En fait.
Bernadette aussi a été malade comme une partie de sa famille. Elle raconte aujourd'hui l'angoisse pour éviter d'être contaminée à nouveau.
Tu vas à la salle de bain. Ah, il faut surtout pas se laver, brosser les dents avec l'eau du robinet. Tout ce qui est vaisselle, j'ai pas de lave-vaisselle, moi. Donc, fais bouillir l'eau. En plus de ça, quand l'eau est bien bouillante, je verse sur ma vaisselle à faire.
Plus de 50 000 bouteilles d'eau ont été distribuées depuis jeudi. Philippe Pignon est le maire de Rousset.
Ce que l'on constate dans les rues, il semblerait que le pic de l'épidémie ait été atteint, que le nombre de cas diminue depuis quelques jours.
Mais le maire reste prudent, la consommation d'eau du robinet est toujours interdite en attendant les résultats de l'enquête des autorités sanitaires.
Une question ce matin, qui remportera la Coupe de France de football cette année? Ce ne sera pas Paris, déjà, ça c'est une info, Paris qui a été éliminé, il y a donc du suspense. Et il y aura la première demi-finale ce soir à 21h10, on vivra ça sur RMC entre Lens et Toulouse, qui est d'ailleurs le dernier vainqueur autre que Paris, c'était en 2023. Mais ce sont bien les Lensois qui sont favoris, qui rêvent du titre, nous dit Jean Baumel à Lens pour RMC.
Chez les supporters lensois de la section des Good Boys de Waterloo, la Coupe de France est un véritable objectif.
Tous les ans, on dit, on veut gagner la Coupe de France, on n'a pas la Coupe de France. Plus proche que jamais.
La Coupe de France, ça serait le summum, quoi. La cerise sur le gâteau.
Toulouse ne battra pas Lens à Lens. Normalement, c'est pour nous. Direction le Stade de France. Rendez-vous au mois de mai à Saint-Denis.
Pour l'attaquant sans or, Florian Sotoka, remporter cette compétition pour la première fois cette année serait symbolique.
Ça fait 120 ans que le club a été créé, c'est une très belle date. Et ça serait forcément un très beau cadeau d'anniversaire que d'amener le peuple lensois en finale de Coupe de France.
Pour cette demi-finale, Lens retrouve Toulouse, qu'il a battu difficilement vendredi dernier en Ligue 1. Pour l'entraîneur Pierre Sage, le public de Bollaert aura une nouvelle fois un rôle important pour aller en finale.
Vendredi, je pense que sans eux, on n'y serait pas arrivé. C'est nous qui avons de la chance de jouer devant eux déjà. Il y a des matchs dont on se souvient et j'espère que celui-ci en fera partie.
Quasiment qualifié pour la Ligue des Champions, Lens espère bien finir sa saison avec un trophée le 22 mai au Stade de France.
Et pendant ce temps à Marseille, c'est la crise. Double dose d'entraînement aujourd'hui et demain après la déconvenue du week-end dernier. Mise au vert même pour les joueurs à partir de jeudi et pour trois nuits jusqu'au match de dimanche contre Nice.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Emmanuel, le chiffre comme chaque matin. Pendant que les Français espèrent des aides pour alléger leurs factures de carburant, le gouvernement va tailler dans les dépenses.
Eh oui, c'est la journée du grand écart.
C'est ça.
Pour le gouvernement, pour Sébastien Lecornu, pour Roland Lescure, le ministre de l'économie, puisque d'un côté, effectivement, on a les Français qui espèrent que ce gouvernement va desserrer les cordons de l'argent public, les cordons de la bourse, en baissant les taxes sur les carburants. Et Roland Lescure vient d'annoncer qu'effectivement, ce soir, des mesures seraient proposées. Alors, peut-être pour aller vers encore quelques professions qui roulent beaucoup, ou alors peut-être même pour tous les gros rouleurs à budget modeste qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Mais dans la même journée, Apolline, ce gouvernement se prépare aussi à annoncer qu'il va resserrer les cordons de la bourse. Pourquoi? Eh bien, l'équation, elle est assez simple. La guerre en Iran va amputer la croissance de 0,1 à 0,2 points de PIB. Ça veut dire des recettes fiscales en moins, un peu plus de dépenses sociales. Bref, une facture au moins de 3 milliards de pertes pour les finances publiques. La hausse des taux d'intérêt pourrait alourdir la charge de la dette de plus de 1 milliard. Le gouvernement, donc, au dernier comptage, prévoyait de lâcher 130 millions, mais ce sera sans doute plus pour les personnes en difficulté à cause de la hausse des carburants. Il dépense 135 millions par mois pour ses opérations militaires. Bref, pour tenir l'objectif d'un déficit à 5% du PIB, objectif auquel il est hors de question de renoncer, dit Sébastien Lecornu, il faut trouver 4 à 6 milliards d'euros d'économies.
Ces économies, il va aller les chercher où ?
Alors, on va le savoir à l'issue du comité d'alerte sur les finances publiques qui se tient ce matin. L'alerte, absolument. L'effort devrait être en grande partie assumé par l'État et les administrations centrales, un peu aussi par la sécurité sociale, mais les collectivités locales seraient épargnées. La priorité va porter sur la réduction des coûts de fonctionnement, sur le gel supplémentaire de crédit, sans doute 3 milliards, sur des annulations carrément de crédit autour de 1 milliard. Un nouveau coup de rabot sur les exonérations des cotisations patronales est envisagé. Pourquoi pas au niveau européen aussi une taxe sur les entreprises qui ont profité de la crise et notamment les énergéticiens. Bref, pas de loi de finances rectificative prévue à ce stade. Mais l'important, c'est vraiment de convaincre les marchés financiers que la France tient désormais ses engagements budgétaires.
Et on aura des précisions ce soir, donc, Sébastien Lecornu qui devrait s'exprimer pour préciser le contour de ces aides. Les prix du jour, Emmanuel.
Alors, le gazole, ben, ça continue de baisser assez nettement. On est à 2,15 € le litre. Hier, on était à 2,18 € et on était à 10 centimes de plus il y a une semaine. Alors, c'est plus compliqué sur le sans-plomb 95, où là, vraiment, on a un nouveau seuil de résistance autour de 1,95 € le litre. Le pétrole, vraiment, on a un équilibre, alors avec beaucoup de volatilité, mais autour de 95 $ le baril. Là, on est à 94,3 €. Et puis, le gaz, on passe
continue à redescendre gentiment
sous les 40 € le mégawattheure. On était quand même à 60 il y a un mois.
Merci Emmanuel, il est 8h12 sur RMC. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Mathieu, les réactions à la fois au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission sur les prix.
Avec les prix des carburants qui battent des records ces dernières semaines, cette question, est-ce qu'on va faire face à un choc inflationniste, à une hausse des prix à la consommation? Mathieu nous écrit en réaction aux industriels qui demandent de revoir certains prix. Ce qui est rigolo, c'est que lorsque ça augmente, il est impératif de répercuter. Mais lorsque ça baisse, on nous dit que les prix sont bloqués. Roland lui écrit, et si c'est l'inverse, brusque baisse des matières premières, est-ce que ce monsieur, notre invité qui représentait l'ANIA, viendra nous expliquer qu'il faut renégocier à la baisse? Demande Roland avec un peu d'ironie. Denis, vous l'aurez compris, Alexis nous dit c'est trop facile de rouvrir des négociations alors que les consommateurs finaux ont déjà du mal à payer des courses. Ils peuvent aussi baisser leur marge pour que les consommateurs s'y retrouvent un minimum. C'est ce que nous écrit Alexis ce matin au 06 12 424 424.
Dans un instant, Arnaud Demange va venir nous rejoindre, bien sûr, à 8h30, notez-le, mon invité dans le face-à-face. C'est l'ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique de Villepin. Évidemment, on l'interrogerait sur les négociations à venir entre États-Unis et Iran, peut-être la fin du conflit, quel scénario, mais aussi sur sa candidature, de moins en moins secrète, pour l'élection présidentielle. Et puis juste après, le meilleur de Nicolas Canteloup, comme tous les jours à 8h50 sur RMC. A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Il est 8h15 et comme tous les jours, pour notre plus grand bonheur, Arnaud de Manche est avec nous.
Mais oui, bonjour, bonjour à tous. Ah, tiens, Apolline, ouais. Mathieu, les amis, oui. J'ai une super nouvelle pour vous. Attention, vous allez être contents. Car les salles de sport Basic Fit vont ouvrir la nuit. Vous allez pouvoir faire votre muscu avant de venir à la matinale.
C'est Apolline, tellement à l'américaine.
1h du mat, ça
bien
va
sûr,
être génial.
Bien sûr.
Apo, elle va faire son développé couché. Des fentes bulgares avec des kettlebells, boxer, des punching balls en disant « Alors Villepin, tu veux pas répondre ?» Ils viennent d'où tes sous ? Et Apo, elle verra aussi débarquer Alain Bauer dans le Basic Fit qui sera en micro-short fluo. Oh, quelle coïncidence, Apolline. Vous ici, vous savez que je viens de sortir mon nouveau livre. Ça s'appelle « C'est la loose dans le détroit d'Ormuz ». Et c'est l'histoire d'un bel aventurier moustache. Je sais, Alain, je sais. Appelez ma programmatrice. Elle a bloqué mon numéro. Et toute l'équipe de BFM Business serait là aussi. Manu Le Chypre et Edwige Chevrillon.
T'as vu Edwige ? Je suis sur cette machine depuis une heure. Je tiens bien le coup, hein.
Oh, Choubinou, comme tu es fort ! C'est la machine à confiserie.
Ah oui.
Rejoins-moi sous la douche. On va voir combien de kilos tu peux soulever au développé couché.
Oh non.
Mon Schwarzenegger des OPCVM. Mon Jason Statham des SICAV obligataires. Mon Stallone des trackers à double effet de levier. Oh, dis-moi des mots dégoûtants.
Taxation des hauts revenus.
Oh,
c'est sale. C'est sale. Bon, non, moi j'aime bien l'idée que les Basic Fit ouvrent la nuit parce que. En fait, quand ils ouvrent le jour, j'ai aucune excuse pour pas y aller. Alors que la nuit, je peux dire, ah, mais bon, c'est la nuit quand même. La nuit, on dort. Et alors, à propos de salle de sport, avez-vous vu cette polémique géniale après les déclarations d'une journaliste du Figaro, Anne de Guigné, invitée du club Figaro ID, elle a déclaré ceci.
Fliche des efforts, mais colossaux. C'est même les salles de sport qui se multiplient dans toutes les villes françaises et en fait qui cultivent une vraie nostalgie de l'usine. Une nostalgie du monde industriel.
J'avoue que j'avais vu. Je lui ai dit, en fait, c'est une nostalgie de l'usine.
C'est une nostalgie de l'usine. C'est pour ça qu'on va à la salle
de sport. Ça cultive d'ailleurs cette nostalgie.
Oui, on est nostalgique de l'usine. Et c'est vrai que c'est puissant cette nostalgie. Tous ces gens sur les rameurs, hein, cette nostalgie des galères romaines, le bon vieux temps.
Voilà.
L'envie de perdre du poids, mais non, mais on était mieux du temps des famines.
Oui.
On avait un rat crevé à Noël, mais nostalgie. On était heureux. Nostalgie. Il n'y avait pas de problème de surpoids. Voilà, on n'était pas nostalgique à l'époque. On n'avait même pas le temps d'être nostalgique. On mourait à 30 ans.
Bah, oui.
C'était vachement mieux. On n'avait pas le temps, quoi. Voilà. Vous savez, moi, si je fais de la muscu aujourd'hui, c'est parce que j'ai pas pu y aller à l'usine. Moi, mes parents, ils m'ont obligé à faire des études d'art. Je leur avais dit, je veux être tourneur fraiseur dans une usine de bagnole, merde, quoi. Et ils m'ont dit, non, tu peins. Des femmes nues dans une verrière, mes muscles. Et voilà, aujourd'hui, regardez le résultat. Voilà. Regardez le résultat. Alors que j'aurais pu faire de la soudure industrielle sur des camions et après les Jeux Olympiques.
Voilà.
Puis c'est fou, hein, cette mode. Toutes les meufs de télé-réalité qui sortent avec des ouvriers en ce moment, ça n'arrête pas.
Salut les chouchous. Aujourd'hui, je suis allé à la sortie de l'usine de Lavelage de Roubaix pour voir mon chéri. C'est Michel, 30 ans d'usine. Vous verriez le summer body. Franchement, les meufs, réalisez votre rêve, sortez avec un ouvrier. C'est beau, cette nostalgie. C'est beau.
Hier, Arnaud, le MEDEF a donc reçu à déjeuner le président du RN, Jordan Bardella, pour échanger sur des sujets économiques.
Oui, alors le patron du MEDEF a accueilli Jordan. Bonjour, monsieur Bardella. Alors, qu'est-ce que vous connaissez du monde des affaires ? Des affaires au RN, on en a plein. On a l'affaire des parlementaires européens, l'affaire des kits de campagne. Non, mais des affaires du business. Vous faites un peu du business ? Oui. Avec la Russie, par exemple.
Voilà.
Non. Qu'est-ce que vous proposez pour aider les TPE ? Eh bien, les TPE, grand 2, les TPE, des fois, on met sa carte et ça marche pas. Donc, mais c'est bien embêtant. Non, mais c'est pas ça les TPE. Ah. Moi, ma copine, c'est une princesse.
Ah oui. Eh
ben, on est pas sorti du sable.
C'est pas gagné. Pas du tout. Et puis Arnaud, c'est toujours la crise dans le détroit d'Ormuz.
Ah oui. Aïe, aïe, aïe.
Zut.
Ah, pop. Quelle histoire. Eh ouais. Ouais. Bah, il va falloir tenir jusqu'à juin avec le sujet. Hein. Alors, aux dernières nouvelles. Les dernières nouvelles.
Oui.
Dernières nouvelles.
Allons-y, Donald dernières Trump nouvelles.
A menacé de détruire les ponts en Iran si les pourparlers de paix échouent. J'espère que Macron va pas s'inspirer de lui, qu'il va pas faire « Mais voilà, ça c'est bien. Vous aussi les Gaulois, faudrait vous faire sauter vos ponts là, votre connerie de 1er mai, allez, ça dégage. L'année prochaine, c'est dehors. Et le pont du 8 mai, et hop, à l'usine, ça vous rappellera la salle de sport. Et le pont de l'Ascension, vous en avez combien des trucs? Regarde, au moins le pont de Ligonnès, lui, il a disparu, celui-là. Allez, à demain.
À demain, Arnaud Demange, tous les jours avec nous pour le plus grand plaisir. Arnaud, qui peut être évidemment à tout moment aussi en podcast et qui va être sur le terrain. Bah oui, ouais. Parce qu'il fait son tour de France comme Gabriel Attal. En tournée à Genève, à Montpellier, à Reims, à Chambéry, à Orange, à Gaillac ou à Morières-les-Avignon, un spectacle RMC. Il est 8h21, dans un instant, le face-à-face. Mon invité sur RMC et BFM TV, c'est Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, l'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères. On va évidemment revenir sur les scénarios des toutes prochaines heures. L'Iran, les États-Unis, Israël, le Liban, mais également sur sa candidature de plus en plus évidente à l'élection présidentielle. Il propose quoi, tiens, pour la vie quotidienne des Français? Il propose quoi pour le carburant, pour les retraites? Je pose les questions à Dominique de Villepin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de
Malherbe. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Dominique de Villepin.
Bonjour.
Merci d'être mon invité ce matin et de répondre à mes questions. Vous êtes l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, de plus en plus, on le verra, candidat à l'élection présidentielle. D'abord, évidemment, la situation, la guerre. Demain soir, fin du cessez-le-feu entre États-Unis, Israël, Iran. Possible négociation donc au Pakistan. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre et à qu'est-ce qu'il serait souhaitable?
Alors nous sommes un peu dans la chronique d'une catastrophe annoncée. Donald Trump a, par son esprit et ses foucades, créé une situation qui est aujourd'hui tragique au Moyen-Orient et on le voit, qui pèse sur l'ensemble du monde et très fortement sur l'économie mondiale. Il ne connaît que la marche en avant militaire ou le retrait pur et simple. Nous sommes dans un temps où il faut espérer que la diplomatie puisse reprendre ses droits. On voit la deuxième session diplomatique qui s'ouvre au Pakistan. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ces négociations puissent aboutir dans l'État. C'est un jeu de poker menteur. Les Américains voudraient une victoire absolue, au moins déclaratoire, et les Iraniens ne sont pas prêts à lui accorder cette victoire. Donc aujourd'hui, on a besoin de tiers de confiance, on a besoin que les États de la région reprennent la parole, on a besoin que l'Europe joue son rôle, et le Sud global également.
Ce personnage, cette tierce personne, ou est-ce que c'est nous, l'Europe? Est-ce que c'est l'ONU? Est-ce que c'est l'OTAN? Qui est-ce que, d'après vous, devrait rentrer dans la danse?
Alors, je pense que c'est bien sûr des intermédiaires qui sont bien placés vis-à-vis des deux parties. Vous citez le Pakistan, il en fait partie, mais pas seulement. Je pense que aujourd'hui, c'est la conjugaison des États de la région qui ont subi cette catastrophe extrêmement durement.
Le
modèle politique et économique est très affecté pour ces États. Je pense aux Émirats Arabes Unis, Dubaï. Qu'est-ce que Dubaï aujourd'hui dans l'insécurité de cette région? C'est vrai pour d'autres Émirats et c'est même vrai pour l'Arabie Saoudite et ses grands plans pour l'avenir. Tout cela est en panne. Nous avons donc besoin de soutien diplomatique. L'Europe a un rôle important à jouer et je crois que nous avons besoin de réactiver certains forums.
Vous parlez de
le Conseil de sécurité est bloqué. L'Assemblée générale pourrait être l'enceinte où se mettent ensemble une coalition de pays qui offre au moins à Donald Trump et à l'Iran un chemin. Il s'agit de dessiner un chemin montrant qu'il est possible de sortir en dehors des armes et de cette guérilla qui peut se prolonger longtemps. On peut imaginer qu'il y ait ainsi des allers-retours de frappe.
Ça, c'est un des scénarios que vous dites possible.
Et quand on sait que 40% du kérosène européen passe par le Golfe, 80-90% pour l'Asie, quand on sait qu'une grande partie des énergies fossiles, pétrole et gaz, le font de même, les engrais, on voit bien que cela va peser considérablement.
Vous dites c'est le moment de la diplomatie. Négocier quoi ?
Alors, il faut remettre sur la table ce qui était déjà, et nous voyons bien à quel point nous avons régressé. Il ne faut pas se tromper. Cette guerre est une guerre non seulement pour rien, mais c'est une guerre qui nous ramène en arrière. Il faut absolument reprendre la question nucléaire. Il y a par ailleurs la question des missiles. On sait tous l'insécurité dans laquelle vivent aujourd'hui les États du Golfe et Israël qui sont susceptibles d'être touchés par ces missiles. Donc voilà déjà deux gros sujets qui sont sur la table. Et il y a par ailleurs la question maintenant du détroit d'Ormuz qui s'ajoute à cela, parce que les Iraniens ont pris conscience qu'ils avaient là dans la main une arme considérable, et c'est un enjeu pour toute la communauté internationale. Et nous avons besoin par ailleurs de sortir de la logique aujourd'hui des sanctions qui pèsent évidemment très lourdement sur l'économie iranienne, et de penser à l'avenir.
Lever ces sanctions.
Penser à l'avenir du peuple iranien, je pense qu'il faut rester très très ferme sur le régime, tout en étant soucieux d'ajuster ses sanctions pour que le peuple iranien lui-même voit sa souffrance.
Comment on fait pour être ferme et en même temps ouvrir ?
C'est le ciblage des sanctions, c'est le ciblage des responsables. Nous avons, depuis plusieurs mois maintenant, un paysage assez précis de qui fait quoi dans le nouvel Iran. Eh bien, que nous soyons très soucieux de faire peser une épée de Damoclès sur ceux qui sont ces responsables, pour bien marquer que la communauté internationale n'accepte pas l'impunité. Nous avons vu la catastrophe effroyable du début de l'année, ces dizaines de milliers de morts en Iran. Nous ne pouvons pas accepter qu'à la faveur de la situation de confusion actuelle, un nouveau cycle de répression s'engage en Iran. Car c'est bien ce que nous avions annoncé, la crainte que le régime ne se renforce à la faveur de la guerre, ne se durcisse. Et bien évidemment, ceux qui en supportent
vous
les premiers
utilisez
les conséquences,
le mot catastrophe.
C'est les Iraniens.
Vous utilisez le mot catastrophe, vous dites c'est la chronique d'une catastrophe annoncée. Qui est aujourd'hui en position de faiblesse ? Est-ce davantage les États-Unis ou davantage l'Iran ?
Alors, c'est paradoxal, l'Iran est en position de faiblesse militaire, et c'est en cela que la guerre menée par l'Iran, elle est faite avec les moyens de l'Iran, qui sont les moyens du pauvre, en quelque sorte, c'est-à-dire les drones, les quelques missiles qu'ils sont encore capables de fabriquer, et un esprit de résistance qui lui est extrêmement solide. Les Américains ont complètement oublié qu'entre 80 et 88, les Iraniens face à l'Irak avaient été capable de se confronter au pire, partant avec la petite clé du paradis autour du cou sur des champs de mines. C'est donc une population, un régime en tout cas, qui est capable d'une souffrance extrême. On le voit d'ailleurs également dans d'autres théâtres. Cette souffrance, elle fait que l'Iran a une capacité de résistance.
Quand vous dites souffrance, c'est quoi ? C'est une sorte de kamikaze ? C'est une logique kamikaze ?
C'est un quelque chose qui les pousse à continuer à se battre, qui est plus grand qu'eux. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime toujours. Les Américains l'ont sous-estimé vis-à-vis des Afghans. Nous l'avons sous-estimé, nous, dans les guerres napoléoniennes. On doit prendre en compte qu'il y a quelque chose, quand on défend son territoire, qui est difficilement battable. Et la première puissance du monde, eh bien, elle a calé en Afghanistan, elle a calé en Irak, eh bien, elle cale aujourd'hui en Iran. Alors, on pourrait aller vers l'écrasement total, et on ne peut pas complètement exclure que l'idée même d'employer, par exemple, l'arme nucléaire n'ait pas effleuré certains dirigeants américains.
L'idée d'utiliser l'arme nucléaire, malgré le fait qu'il l'ait nié, en réalité a été envisagé et peut-être encore envisagé.
Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus désinhibé et ça dit beaucoup de la
désinhibé, ça vous vous dites potentiellement
oui, désinhibé,
à un moment
capable,
le président américain pourrait appuyer sur le bouton
capable
nucléaire
capable de choses qui nous paraissent aujourd'hui impossibles à penser, et nous devons avancer dans ce monde, dans notre bataille pour la souveraineté européenne, pour la souveraineté française, avec l'idée que les risques deviennent aujourd'hui beaucoup plus importants.
J'ai encore beaucoup de questions à vous poser, évidemment on va revenir sur la question aussi du Liban, mais sur le coût, vous l'avez dit d'ailleurs, c'est un coût considérable pour
le reste du monde. La France estime que rien que pour nous, ça va être 4 à 6 milliards d'euros en moins pour le budget de l'État. Le gouvernement qui est donc prêt à geler un certain nombre de dépenses, il va l'annoncer dans la journée. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que la France aujourd'hui prend les bonnes décisions ? Par rapport à nos voisins, on aide beaucoup moins. Il y a eu des baisses de taxes qui ont été faites en Italie, en Espagne, en Allemagne. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que les réponses du gouvernement sont à la hauteur des inquiétudes des Français ?
Malheureusement, le gouvernement n'a pas anticipé cette crise qui est le devoir de tout gouvernement dans une période aussi volatile. Nous nous retrouvons donc à faire ce que nous pouvons, c'est-à-dire aider les professions les plus touchées. Nous allons devoir faire plus, je pense en particulier pour les ménages qui sont dans des zones rurales et qui ont absolument besoin de la voiture pour travailler.
Vous aviez évoqué
c'est le cas de l'infirmière libérale.
Une carte carburant.
Et je pense que la carte carburant qui serait dans la main des maires sous condition de ressources, c'est sans doute le moyen d'engager.
C'est un chèque. C'est une sorte de chèque.
Oui, d'engager le moins les finances publiques possibles, tout en faisant le nécessaire pour que certaines personnes ne se retrouvent pas dans un total dénuement. Nous devons, par ailleurs, faire plus, parce qu'on ne peut pas complètement exclure que le prix de l'essence dépasse les 2,50 €. Si c'est le cas, il faudra alors que nous créions une caisse de compensation avec une capacité d'écrêtage, c'est-à-dire si ça dépasse, eh bien nous devrons apporter une aide en baissant l'accise sur les produits pétroliers, et si ça descend au-dessus de 2 €, eh bien nous devrons augmenter alors la taxe, ce qui veut dire que
c'est une sorte de TIPP, ce qu'était la TIPP flottante.
Absolument, c'est une compensation écrêtage vers le haut et lissage vers le bas, ce qui permet à coût égal de faire face à la période la plus dure
Combien le plafond?
Je pense que autour de 2,50 €, c'est le plafond à partir duquel il faudra intervenir. Parce que nous changeons alors d'ordre et de situation.
On commence à évoquer au gouvernement l'idée d'un prélèvement exceptionnel sur les entreprises qui auraient profité de ce moment. On pense notamment à Total.
Oui, ça c'est très important. Ni profit, ni rente sur la crise et sur le dos des Français.
Il y a des profiteurs.
C'est en tout cas ce quelque chose qu'il faut évacuer. Et là, le gouvernement a un peu flotté, en tout état de cause, il doit faire la lumière. Et donc moi je suis pour qu'on fasse toute la clarté sur les éventuels profits, les éventuelles rentes de situation dont ont pu bénéficier certains pétroliers. On parle effectivement de Total qui a joué sur les marchés. Je crois que ceci doit être évacué.
Avec des conséquences éventuelles, c'est-à-dire si on constate effectivement qu'il y a une forme de rente qui en est sortie, alors on taxe.
Il faudra prendre les mesures nécessaires, mais il est clair que personne ne doit pouvoir s'enrichir sans motif dans cette période sur le dos des Français. Le principe de responsabilité et donc de clarté nécessaire. Nous sommes dans des démocraties qui sont fragilisées et donc le premier devoir que nous avons, c'est d'être juste. L'exigence de justice sociale est absolue.
Le Liban, négociation qui devrait reprendre entre le Liban et Israël, qui devrait prendre tout court d'ailleurs, parce que c'était une sorte d'introduction ce qui a eu lieu la semaine dernière. Est-ce qu'à vos yeux, c'est un espoir ?
Alors, c'est un espoir dans la mesure où les armes se sont pour le moment tues, même si nous voyons que les effractions au cessez-le-feu sont très nombreux et que malheureusement on continue à mourir aujourd'hui au Liban. Donc il faut saisir cette situation pour clairement marquer à la fois le possible et les limites du jeu. Nous devons sortir de l'équation dans laquelle et le Hezbollah et Israël, dans une partie très dangereuse pour le Liban, prennent en otage ce pays. Il faut donc faire en sorte d'avancer dans la voie de la démilitarisation. En l'état actuel des choses, l'armée libanaise peut difficilement faire cela seule. Donc moi je suis pour que nous ayons un renforcement de la FINUL, voire une coalition de pays qui puisse aider l'État libanais a désarmé le Hezbollah. Parallèlement, il faut un processus politique, parce que ceci ne peut pas être fait sans qu'il y ait un engagement extrêmement clair d'Israël à se retirer complètement de la zone qui est actuellement occupée.
Le sud du Liban, les fameux 10 et plus kilomètres.
Et à ne pas continuer à tirer comme ils le font aujourd'hui, un jour sur Beyrouth, un jour sur la vallée de la Bekaa. Donc nous devons poser cette équation politique et ce renforcement du dispositif qui serait susceptible de conduire au désarmement. Je pense que l'Assemblée générale, là encore,
Nations Unies
peut être un moyen de donner une légitimité. Et la France, qui, ne l'oublions pas, a fait voter la résolution 1701 en 2006, a une responsabilité particulière.
La France qui d'ailleurs recevra aujourd'hui le Premier ministre libanais, il sera reçu à l'Élysée. Est-ce que le Hezbollah, à vos yeux, aujourd'hui, qui est quand même le troisième acteur fantôme de ces négociations, puisqu'on parle d'Israël et du Liban, mais le Hezbollah dit déjà ne pas reconnaître ces potentielles discussions, avec même une sorte de menace de plus en plus claire à l'encontre de la vie même du président libanais. Est-ce que aujourd'hui le Hezbollah peut continuer à être un parti officiel, légitime au sein du Liban?
On peut faire des déclarations. La réalité, elle est là. Il y a la réalité d'un Hezbollah politique et la réalité d'un Hezbollah militaire. Faire en sorte de casser le lien de dépendance entre le Hezbollah militaire et l'Iran, faire en sorte de donner au Liban toute sa souveraineté, de contrôler ses frontières pour que les armes cessent d'arriver. Si l'on veut désarmer le Hezbollah, il faut que les armes n'arrivent plus à l'intérieur du Liban, à partir des frontières. Donc ça suppose de prendre un certain nombre de mesures, et ça suppose donc des moyens. Je pense
donc
que...
Donc on peut garder un Hezbollah politique.
Je pense que le parti politique, il a vocation à se transformer et à prendre acte de la nouvelle période dans laquelle le Liban doit rentrer. Ce n'est possible que si Israël arrête de vouloir tondre la pelouse tous les quatre matins, arrête de bombarder à tout va le Liban et se retire extrêmement clairement. On voit bien que ce n'est pas tout à fait l'intention de Benjamin Netanyahou, qui poursuit partout sur l'ensemble des fronts aujourd'hui sa volonté d'une guerre malheureusement sans fin.
Dominique de Villepin, vous êtes donc l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre, et de plus en plus candidat à l'élection présidentielle. Alors vous ne le dites pas tout à fait officiellement, mais quand on regarde ne serait-ce que vos réseaux sociaux, vous avez lancé un quasi-clip de campagne, ça s'appelle « La France que nous aimons ». Il y a des morceaux de votre grand discours devant l'amphithéâtre de la Sorbonne. Il y a ce que vous aimez de la France, dites-vous. Il y a vos inquiétudes sur la fin d'une idée universelle, sur la fin d'une sorte de vivre ensemble, on le sent bien. Vous êtes de droite ou vous êtes de gauche?
Alors, nous sommes à la fin d'un cycle. Je vais essayer de vous répondre précisément. Nous sommes à la fin d'un cycle qui a commencé en 2007. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron. J'ai une conviction, c'est que le sarkozysme, le hollandisme et le macronisme ont fait leur temps. Il faut tourner la page. Nous sommes aujourd'hui en train de rentrer dans un nouveau monde, à la fois sur le plan international et en même temps sur le plan national. Et ce constat apporte en moi une conviction. Et cette conviction, c'est que tous ceux qui aujourd'hui ont été ou sont les héritiers de ces trois périodes
vont devoir quoi ? Quitter
auront
la scène ?
Beaucoup de mal à porter une ambition.
Donc on revient
dans
au chiracisme. Est-ce que
présidentielle,
je vois bien que ça commence pour vous effectivement après le chiracisme, cette période dont vous dites qu'il faut qu'elle s'arrête.
Après tous ceux qui, dans la Ve République, du général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand et Jacques Chirac, ont eu une conception de la fonction présidentielle qui était à la hauteur des besoins. C'est-à-dire une fonction d'arbitre. Nous aurions bien besoin d'un arbitre aujourd'hui dans notre pays pour rétablir la sérénité, pour permettre à nos institutions de fonctionner. Un arbitre, un garant et un stratège. La grande ambition française aujourd'hui, elle est double.
Ça veut dire que vous n'allez pas rentrer, c'est-à-dire on le voit bien pour l'instant dans vos discours, c'est effectivement des stratégies, des grands plans pour la France, mais pour l'instant je ne sais pas en tout cas ce que vous pensez de l'âge légal de la retraite, de la légalisation du cannabis, de la question des impôts, des charges, du chômage.
Toutes ces questions sont importantes, mais le grand enjeu pour la France, c'est d'être capable de mener une double bataille. La bataille de la souveraineté, comment faisons-nous pour rester un pays indépendant dans les prochaines années, à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe, mener la grande bataille qui s'annonce pour 2027 et qui prime sur toutes celles que vous avez annoncées, qui est la bataille de la démocratie. Si le Rassemblement National arrive au pouvoir en 2027, nous changeons de monde, nous entrons dans une démocratie illibérale.
Votre ancienne famille politique, c'est-à-dire la droite, aujourd'hui est représentée par des gens comme Bruno Retailleau, qui lui met dos à dos le Rassemblement National et la France Insoumise. Est-ce que vous estimez que le danger est le même d'un côté ou de l'autre?
Mais le petit théâtre politique aujourd'hui tel que nous le voyons, c'est un théâtre ancien. Et les personnages qui s'agitent sur la scène et qui gesticulent sont des personnages de carton-pâte. J'écoutais hier Bruno Retailleau égrener ces quelques mesures. Est-ce que vous pensez, en appliquant tout cela, que c'est susceptible de changer notre pays aujourd'hui? Nous sommes dans une épreuve
mais
terrible.
Mais vous ne m'avez pas dit si vous étiez droite ou gauche.
Oui, mais j'y viens. La question de la démocratie et la question du rassemblement sont incontournables. Quoi qu'il arrive en 2027, vous ne pourrez pas faire passer des réformes avec 50% plus une voix. C'est-à-dire que la démocratie représentative ne suffit pas. C'est-à-dire qu'être de droite ou de gauche ne suffit pas. Les candidats de droite ou de gauche ne pourront pas gouverner la France après 2027. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous devons inventer un nouveau modèle de démocratie, à la fois sociale, qui rassemble les partenaires sociaux très en amont des réformes, en même temps citoyenne. Il faut embarquer tous les citoyens. C'est-à-dire qu'il faudra réhabiliter le référendum, et en même temps, il faudra, à travers les conventions citoyennes, faire vivre notre démocratie. Il faut donc se convaincre qu'une réforme des retraites à 50 plus 1 ne passera pas plus que n'est passée la réforme Macron. Et ça veut dire
donc
quoi?
Ça veut dire
qu'il faut un président qui soit capable de présider et qui soit donc capable de dépasser le clivage de la droite
donc
et de la gauche.
Ni de droite ni de gauche.
Je suis gaulliste. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je peux, et nous ne sommes pas nombreux, travailler avec tout le monde. Je peux travailler avec les partis politiques tels qu'ils sont, tout en laissant les partis politiques...
Avec tous, c'est-à-dire, est-ce que vous accepteriez de travailler avec le RN et avec LFI?
Je l'ai dit clairement, je ne mets pas le Rassemblement National et LFI dans
la... Donc vous pourriez travailler avec LFI, mais pas avec le RN?
Je pense que ces partis vont être amenés à se métamorphoser sans doute dans le cadre de la campagne. L'héritage qui est celui du Rassemblement National, qui est un héritage très lourd, à la fois de xénophobie, de racisme, préférence nationale. Quand j'entends les patrons recevoir aujourd'hui le Rassemblement National, ils oublient que au cœur du projet de Marine Le Pen, il y a la priorité nationale, c'est-à-dire que les entreprises sont obligées de...
C'est une faute que les patrons...
Mais c'est un changement de démocratie et c'est un changement de monde. Et ce que je crois, c'est qu'il faut dans ce contexte...
Mais je comprends que vous aurez encore beaucoup de choses à dire et donc vous reviendrez. Merci ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, et vous le dites, vous êtes aujourd'hui, d'après vous, en mesure aussi de travailler avec tout cela pour une nouvelle démocratie. Merci d'avoir répondu à mes questions, il est 8h49. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Jordan Bardella était mon invité dans le face-à-face et il était resté face à Canteloup.
Bonjour, bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue dans Qui veut gagner des élections. Et notre candidat du jour, c'est Jordan. Bonjour Jordan. Je précise qu'on parle bien des élections municipales, mais oui, parce que quand on voit le physique de Jordan, on pourrait penser que vous participez plutôt à l'élection de Mister France. Allez, ne nous égarons pas. Voilà. Tout de suite, la question. Cher Jordan, pour que le RN remporte les élections municipales, il faut un projet clair et ambitieux, réponse A. Surtout pas de brebis galeuses, réponse B. Des dérapages de Jean-Luc Mélenchon, réponse C. Supprimer les candidatures de Virginie Joron à Strasbourg, anti-vax et pro-russe, de Brice Bernard à Chambéry qui fait des quenelles comme Dieudonné, ou bien encore...
Mais arrêtez, mais ne commencez pas avec les tweets de la grand-mère de la boulangère du candidat ou l'oncle du mari de la belle-sœur du charcutier.
Pascal Pro, mais qu'est-ce que vous faites là?
Mais cette question est insupportable. Ah. Mais oui, Pauline Allon, vous le savez, vous êtes journaliste, elle est orientée, cette question, pardon, mais il faut préciser aussi que dans ce jeu, il y a des jokers. Ah. L'appel à un ami, ce n'est pas fait pour les chiens. C'est essentiel. C'est essentiel, l'appel à un ami pour gagner une élection. Surtout quand l'ami en question s'appelle Vincent Bolloré.
Ah. On va faire un point sur la situation au Proche-Orient. On retrouve tout de suite Christophe Delay. Tiens, certainement le journaliste le plus précis de toute la rédaction de BFM TV. Bonjour Christophe, où est-ce qu'on en est?
Oui, bonjour Apolline. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure qu'il est, c'est-à-dire à 8h57 à l'instant, heure de Paris, c'est-à-dire 11h27, soyons précis, heure de Téhéran, nous dénombrons très exactement, vous m'interrompez si je m'égare, on dénombre très exactement 41 missiles tirés donc par les Iraniens sur leurs voisins du Golfe, alors que du côté américain, nous en sommes très exactement à, soyons prêts.
Christophe, pardon de vous interrompre, mais là, ça bouge à l'instant sur Dubaï.
Oui, allez-y, Didier François, vous êtes notre envoyé spécial, je rappelle, dans le Golfe, en direct, bien sûr, des studios de BFM sur place dans le 15e à Paris. C'est dire si vous connaissez le terrain. Didier François, dites-nous en plus, cher Didier François.
Oui, donc le score vient d'évoluer sur Dubaï avec un nouveau missile iranien en pleine lucarne de l'hôtel Four Seasons.
Merci, cher Didier François, pour ces précisions. Donc cela, vous m'interrompez si je m'égare, cela porterait donc, je parle bien sûr au conditionnel, le score à 42 missiles iraniens, soyons précis. Et du côté américain, nous en sommes très exactement à...
Christophe, nouvelle frappe américaine cette fois, autant pour moi, Christophe, elle a été interceptée par le gardien de la Révolution.
Écoutez, vous avez bien fait, cher Didier François, de nous interrompre, car la priorité, je rappelle, sur BFM est au direct. Le score reste donc, soyons précis, le score est précis, donc 117 missiles et demi pour les Américains, tandis que de leur côté, les Iraniens sont...
Pardon, Christophe, vous interromps, mais là, ça s'agite vraiment du côté du Koweït, où après la chute d'un avion F-15, les Américains sont en train de demander la VAR. Oui, la VAR, et à l'instant, l'arbitre qui visionne et qui ne... Oh là 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 là, donc il ne valide pas le point pour les Iraniens, puisqu'il s'agit d'un tir de la défense koweïtienne, donc contre son camp. Apparemment, voilà où on en est.
Merci, cher Didier François. Écoutez, nul doute que nous en parlerons bien sûr ce soir avec Daniel Riolo et Gilbert Bibois dans l'After Frappe. Et dès 18h, bien sûr, sur RMC, dans Rotten sans flamme et le Moyen-Orient aussi.
On continue de parler de la guerre au Moyen-Orient avec Emmanuel Macron. Bonjour, monsieur le président. Vous serez tout à l'heure en déplacement à Chypre.
Oui. Et vous ne me demandez pas ce que je vais faire à Chypre, Apolline de Malherbe?
Vous allez rencontrer votre homologue chypriote. Paphos, Nikos, Christodoulias, ainsi que le premier ministre grec. Ça m'avait fait un petit cadeau. Kyriakos Mitsotakis.
Voilà.
Bravo. Merci. Non, c'était juste pour vous voir entendre galérer, voilà. Prononcer leur merci. Nom. Vous n'êtes pas encore la stature internationale. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'ambiance est pesante en ce moment, alors j'essaye juste de détendre l'atmosphère comme je peux.
En France, quand même, la grogne monte contre la hausse des prix du carburant, monsieur le président.
Oui, enfin, franchement, ce qui m'inquiète le plus, c'est pas ça.
Ah bon?
C'est mon Le Cornu.
Ah oui.
Attendez, il s'est tapé le marathon du vote du budget, des votes du budget, les motions de censure, là maintenant la crise du Moyen-Orient. Ah ouais. Mais comment il va tenir le coup, mon Le Cornu, avec le blocage du détroit d'Hormuz? Parce qu'il faut le savoir, c'est par là que transitent la plupart des antidépresseurs mondiaux fabriqués en Inde. Également, près de la moitié des vêtements confectionnés au Bangladesh, dont ces fameux pulls mous, si mon Le Cornu se retrouve à court des deux, on est mal. Il est capable de faire une connerie, oui, de carrément se taillader les sourcils.
Face à la situation au Moyen-Orient, la Russie a proposé aux Européens des approvisionnés en pétrole. Marine Le Pen, vous vouliez réagir?
Et voilà. On y arrive, voilà. Donc la Russie, n'est-ce pas? Et nos compatriotes russes qui vont nous sauver. Et on les entend moins, ceux qui disaient que Marine, c'était la vilaine copine de la méchante Russie, n'est-ce pas? Mais c'est quand même elle qui va vous permettre de faire démarrer la 306. Alors pour qui on va voter si on veut de l'essence en 2027? Rassemblement Zach. Vous ne viendrez plus chez nous par hasard.
C'était Nicolas Canteloup, place au GG. Quel est le programme, Olivier?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les grandes gueules se préparent, elles sont en direct à partir de 9h sur RMC, RMC Story. La crise du carburant, le Premier ministre doit faire de nouvelles annonces ce soir. Michel-Édouard Leclerc hier expliquait que cette crise devait peut-être durer jusqu'à l'hiver prochain. Êtes-vous prêt à vous serrer la ceinture? C'est la question qu'on posera aux grandes gueules et à vous au 32-16. Et puis aujourd'hui aussi, face aux grandes gueules, le maire de Cannes est candidat à l'élection présidentielle, David Lisnard. À tout de suite.